Dans le tempo, c'est l'épisode 21. On est parti.
Thomas présente. Dans le tempo.
Bienvenue dans DLT. Écoutez, c'est l'épisode 21 et comme vous pouvez le voir, grand changement pour le podcast. Pour rappel, évidemment, DLT, c'est le podcast qui parle de musique, de toutes les musiques. On essaye d'en parler différemment, autrement, avec un regard de passionné, évidemment. Et nouveau setup, Michel.
J'ai un bonnet.
T'as un bonnet. C'est vrai que c'est les nouveaux setups, ouais, tu as un bonnet, absolument.
Avant, j'avais une casquette.
Et avant, t'avais une casquette. Est-ce que ça, c'est pour t'adapter à l'environnement que tu fais ça?
Bah, il fait froid.
Il fait froid. En tout cas, oui, vous le voyez, on est accueillis par nos amis de la bouclette. Donc, dans ce beau lieu, on peut le dire, beau lieu ou...
Très beau lieu.
Très beau lieu.
Il y a une basse, là.
Absolument, c'est vrai. Bah, on fait de la musique ici. N'hésitez pas à aller checker, d'ailleurs, sur le Twitch de la bouclette. Chaque semaine, ils font un live musical.
Quel esprit à propos, Salman.
Eh bah, ben, attends, quand même, on fait croquer un peu les copains. Et donc, il se trouve que, voilà, on va essayer de faire à chaque fois le podcast dans ces conditions. Pour ceux qui regardent en vidéo, vous voyez bien qu'il y a une nette amélioration. Le son doit être mieux aussi pour ceux qui nous écoutent bah, sur les plateformes de podcast. Et puis, Michel, bah, voilà, mon gars Chronomusique est évidemment à chaque fois là avec moi pour présenter cette émission. Et nous recevons... cette semaine, un invité. Franchement, c'est la fierté quand même.
Ouais, je suis très
content. Ça fait des mois qu'on s'était dit qu'on avait envie de te recevoir. On attendait d'être dans les bonnes conditions.
J'en ai parlé genre avant même qu'on fasse le premier épisode.
Il y a moyen. Il ouais. Y a moyen.
Je pense.
Et on s'était dit voilà, nouveau setup, il faut l'inaugurer avec Tarek Azouz. Bienvenue Tarek.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Ouais, merci.
Merci à vous de m'avoir invité.
Eh ben écoute, c'est un honneur pour nous. On avait envie de t'inviter pour discuter d'un sujet qui nous semble important, qui est entre guillemets l'art complexe du placement de prod. Le fait que c'est devenu pas une nouvelle pratique, mais qu'aujourd'hui en tant que beatmaker, il y a vraiment la nécessité d'aller chercher des interprètes, des artistes, d'essayer de placer auprès de différentes personnes, et notamment plus toi t'as une particularité, c'est que tu places beaucoup aux États-Unis, donc en plus t'es à cheval entre deux pays, et voilà, on a besoin de ton expertise pour nous parler un peu de ta pratique, de ton expérience, voilà.
D'accord, allons-y.
Mais bon, hein. Tu fais ça depuis une dizaine d'années, ça? Genre professionnellement en tout cas.
Non, professionnellement, mon premier placement c'était en 2015.
Ouais.
Donc ça va faire en juillet de cette année, ça fera 7 ans.
Ah ouais, seulement.
Mais sinon, professionnellement, ouais. Mais sinon, ouais. Je produis depuis 2010. Ouais. J'ai commencé à faire des instruments en 2010 en fait.
Ok, ok. Voilà. Donc,
après ouais, 2015, fait... premier placement et maintenant 2022.
Ouais. Ouais, j'ai commencé en même temps que toi, j'ai un sacré train de retard. Mais donc c'est vrai que on passe là-dessus très vite, mais c'est vrai que t'es connu pour être le rappeur qui. Enfin, le beatmaker qui pose pour les rappeurs américains, etc. On sait que t'as collaboré avec Rick Ross, Lil Wayne, Eminem, Nas.
Attends. Bon, regarde, là, il rend honneur à tout ça.
Oui, mais je sais pas dans quelle mesure ça te casse les couilles d'avoir cette étiquette.
Non, je le vois pas comme une étiquette, c'est juste un fait.
Ouais.
Ouais, puis après, c'est comme on n'est pas énormément à faire ce que je fais.
Ouais, c'est vrai.
On est même deux, tu vois. Bon, il y a moi et il y a Cash Money IP, mais lui, il vit aux États-Unis.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, c'est normal que ça sorte du lot et qu'on ait. Enfin, étiquette, c'est un peu péjoratif, mais c'est juste, voilà, c'est la nature des choses, en fait.
Ouais. Mais oui, tu disais quand même. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Tarek, quand même.
Oui, c'est vrai.
Les noms, quand même, avec qui tu as collaboré. Donc, tu disais.
Rick Ross, Lil Wayne, Eminem, Nas, Jay-Z.
DJ Khaled, évidemment.
DJ Khaled, bien sûr. Ouais. Le Grammy, parce que tu as gagné un Grammy.
Nipsey
Russell. Fianso.
Fianso, Alka, en France, ouais.
Alka, c'est réel.
C'est quand même.
Ça produit le feat Alka, Big Flo et Oli.
Absolument.
Incroyable.
Et Alka, Roy Nock. Une de mes plus grandes fiertés,
c'est vrai. La culture.
C'est récent en plus, ça, non?
Alka Roy Nock, ouais. Enfin, Roy Nock Alka pour le coup. Ouais, ça, je sais pas, peut-être un an et demi, un truc comme ça, je sais plus.
Mais je suis quand même impressionné par ce CV.
Ah oui.
Merci.
Et Tarek, il vient un peu d'où à la base, pour nous le présenter?
Oui, c'est vrai que toi, tu viens du 9-3.
Ouais.
Et que tu y es toujours d'ailleurs. Malgré le.
Toujours.
Le torrent. Le torrent d'or et de platine.
Né, grandi et toujours dans le 93.
C'est vraiment un choix. Je sais que Salman, ça l'a choqué. Mais ouais, comment, pourquoi?
C'est juste que je me sens bien, je me sens très bien et je me vois pas vivre autre part. Tu vois, toute ma famille, tous mes amis, toute ma vie, elle est dans le 93, donc je me vois pas aller autre part.
Bah, c'est vrai que ce qu'on pourrait rajouter en plus sur ton profil, une des particularités qui va être intéressante, parce qu'on va essayer de parler aussi de ton approche de la composition, etc., c'est que tu as commencé aussi en tant que pianiste, avec une formation classique, puis tu t'es orienté vers le beatmaking, la production, dans le rap en tout cas.
Ouais.
En tout cas, voilà, t'as un profil assez divers qui, je pense, nous sera utile, franchement, pour parler de tout ce dont on veut parler. Et justement, en première partie, ça serait un peu axé plutôt sur vraiment le placement de prod, comment tu envisages ta carrière, comment ça se passe effectivement dans ces deux pays, etc. Puis dans une deuxième partie, et notamment Michel, t'étais très attaché à ce qu'on parle de ça, plus sur l'aspect prod, technique, comment tu travailles, ton, ton approche de la composition, des sonorités, etc. Et peut-être pour embrayer tout de suite donc sur la première partie, un peu l'aventure américaine, entre guillemets.
c'est vrai, la ruée vers l'or, finalement.
La ruée vers l'or, disons-le.
J'aime bien.
Vers les millions, peut-être, tu vas nous dire si t'es millionnaire ou pas. Mais c'est vrai que ce que disait Michel, j'ai été marqué en regardant beaucoup de tes interviews, en te lisant, en t'écoutant, etc., par le fait que, franchement, il y a très honnêtement, une simplicité en fait qui se dégage de toi, que je trouve très appréciable, qui est rafraîchissante en fait.
Ouais, je te remercie.
Et notamment, je me disais, donc mec qui bosse avec, on les a cités, on va pas les reciter, mais j'avais noté quand même, parce que c'est des mecs que j'aime bien, je crois que t'as fait un truc avec Lupe Fiasco aussi, avec Royce da 5ix9ine.
Ouais.
Bon, c'est stylé, tu vois, c'est assez impressionnant.
Mais on sent que t'es quelqu'un qui est pas seulement dans le... D'ailleurs, même, je trouve, les placements... de grands noms, c'est des gens qui sont, je trouve, très importants pour la culture, au-delà d'être des gens qui ont pu être à la mode, machin, etc.
Grave.
Moi, je sens qu'il y a cette démarche-là chez toi, un truc de... c'est des gens qui ont vraiment une place importante dans la culture.
Alors, en fait, peut-être que c'est, comment dire, inconsciemment, en fait, que je me dirige vers ces gens-là, mais en fait, quand je fais de la musique et que je fais de la musique pour un artiste, c'est toujours guidé par est-ce que cet artiste me parle, est-ce que ça me touche la musique qu'il fait, est-ce que j'ai envie de faire de la musique avec lui. J'ai pas forcément de réflexion sur il est important ou il n'est pas important, c'est juste ce mec-là il me parle et sa musique elle me parle.
Ouais.
Et du coup j'ai envie de faire de la musique avec lui, mais peut-être qu'effectivement je suis attiré par des gens qui ont le profil dont tu parles, inconsciemment, sans
mais c'est un peu ça que je voulais dire, je pense que t'es naturellement attiré par simplement cette culture-là et pas simplement le fait que ce soit des gros noms, tu vois.
Ah ouais, non, alors ça pour j'ai peut-être mal compris ce que tu me disais. Ouais, j'ai jamais été attiré par ces mecs-là juste pour dire ah je pourrais dire que je l'ai fait, ou tu sais, des fois il y a un complexe France-États-Unis, les États-Unis c'est tellement mieux, ça a jamais été ça. C'est juste, moi, c'est ces mecs-là qui me parlent et c'est cette musique-là que j'ai envie de faire.
Ce qu'on peut dire en plus, c'est que avant même de travailler avec Rick Ross, tu le considérais comme ton rappeur préféré.
Ah bah ouais, c'est ça, tu vois, et c'est pour ça, ça rentre dans la logique de ce que je te dis.
Ouais.
C'est Ross, c'est depuis que je connais Ross, c'est mon rappeur préféré.
Ouais.
Et du coup, tu vois, c'est logiquement que ça a façonné ma façon de faire de la musique, de la musique que j'avais envie de faire, et après les objectifs que je me suis fixés.
Est-ce que tu le kiffais vraiment en tant que rappeur? Ou est-ce que c'est toute l'esthétique musicale ou toute l'esthétique globale qui accompagnait ce truc-là?
Franchement, c'est tout.
Ouais.
Tout. Rappeur déjà.
Ouais.
Parce que.
Il est trop fort.
Trop fort. Franchement, trop à l'aise, trop charismatique.
Ouais.
Tout.
Quelle voix.
La voix. Même, c'est le genre de mec où. Il a certaines phases où ça peut être que lui qui va dire ça.
Ouais.
Tu vois, c'est genre vraiment, c'est pas générique.
Ouais.
Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas. Ça peut être une punch, tu vas dire, ça c'est du Ross.
Le cas pour Lil Wayne aussi. Bon, maintenant ça a changé un peu parce qu'il a eu
Wayne, mais tu te dis, ok, ça c'est du Wayne, ça c'est du Ross. Et du coup, c'était vraiment tout même ces vlogs. Tu vois, je sais pas si tu regardais à l'époque les vlogs MMG. Je te parle de ça en 2011-2012, mais tout me rendait fou en fait. Tout, tu sais, il y a une vidéo. J'invite les gens à aller la voir. Je pense que ça a traumatisé personne à part moi et mes potes. En fait, c'est un vlog à Chicago. Et. Il arrive sur scène, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il arrive avec un grand manteau de fourrure de ouf, super insolent. Il balance l'instru. Non, pardon. Il entre sur scène sans aucune musique. J'ai jamais vu aucun artiste faire ça. Il n'y a pas de musique, rien. Il rentre et il regarde et il fume un joint ou une clope, je sais plus ce qu'il fume. Et il regarde les gens. Ensuite, l'instru part et il rappe pas. Il laisse l'instru tourner alors que, tu vois, le refrain est censé arriver. Il rappe pas. Les gens deviennent fous. Et lui, il est là, il se dandine avec son manteau de fourrure. Et j'ai dit, ok, faut que je bosse avec ce mec-là. Ça peut paraître fou, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il est fou ce mec.
Ouais,
ça me régale.
Ouais.
Et du coup, je te dis, c'est pour ça que je te dis, il y a tout. Il y a musicalement, sa sélection de prod, sa manière de rapper et ce genre de truc-là aussi.
Je me dis,
mais ok, c'est un malade. Il me régale trop.
Pour revenir sur cette histoire, parce que Michel disait effectivement que j'avais été marqué par le fait que tu habites encore à Aulnay. En fait, si tu veux, on se dit que quand on a un producteur qui travaille avec autant de gens réputés, qui a des tubes à son actif, on se dit que c'est certainement aussi un peu rémunérateur, etc. De se dire que ce producteur, on en a un fantasme en fait, en disant le mec il a des villas, etc.
Ouais,
et toi t'habites à 5 minutes de chez tes parents, quoi.
Enfin, tu vois, ça, ouais.
Et est-ce que c'est parce que c'est un choix de vie, ou est-ce que pas tout simplement le fantasme, l'idée qu'on se fait d'un producteur à succès, c'est peut-être un peu surestimé à la fois le gain financier, le style de vie, etc. C'est...
Je pense qu'il y a des deux. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a un côté fantasmé dans les sommes d'argent. Après, tout va bien, tu vois, grâce à Dieu, je gagne bien ma vie, etc. Mais je pense effectivement qu'il y a des gens qui pensent que j'ai 5 lambeaux, 3 villas, etc. Ce qui n'est pas le cas. Après, j'aurais les moyens de vivre aux États-Unis, mais là, c'est juste un choix où... ce que je vais gagner aux États-Unis, peut-être professionnellement, je vais le perdre dans d'autres aspects de ma vie, perso, la proximité avec la famille, etc. Et ce trade-là, il m'intéresse pas du tout. Donc, c'est même pas un truc où je me dis, non, tu dois garder les pieds sur terre, tu dois rester à Aulnay. C'est juste, moi, j'ai envie de rester ici. Je suis bien ici et je reste ici. Tout simplement.
T'as quand même déjà, je sais pas, été ne serait-ce que pour une période relativement longue, 6 mois, 1 an, ce genre de truc ou
aux États-Unis.
Ouais.
Je suis allé aux États-Unis. La première fois, c'était le plus long. C'était 2 mois, mais c'était pas hyper long non plus, tu vois. Ouais. Mais même 2 mois, ça m'a paru long.
Ouais.
Après, c'était la deuxième fois que j'allais, mais c'est la première fois que j'allais en tant que compositeur pour connecter, etc. Donc, comme j'étais en mission, j'ai serré les dents, je suis resté les 2 mois, mais ça m'a bien confirmé que je pouvais pas vivre pas qu'aux États-Unis. Autre part que là où je vis actuellement. Okay. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je le ressens.
Il va falloir qu'on revienne, évidemment. Tu le disais, ton premier placement sérieux, entre guillemets, c'est Lil Wayne en 2015.
Ouais.
Mais avant ça, tu composais déjà. T'étais pas professionnel, entre guillemets, mais une dinde, t'avais déjà placé, etc. Et en interview, on parle un peu moins de cet avant. C'était quoi? C'était la galère? Ça commençait déjà à grimper? En fait, et c'était logique que tu arrives aux États-Unis? Est-ce que, comment ça se passait avant, tu vois?
Franchement, avant, mis à part, alors mon tout premier, si tu parles d'un morceau qui est sorti sur Internet, etc., avec un artiste qui avait quand même un following, etc., c'est avec Gandhi. Je sais pas si vous voyez rappeur belge d'ailleurs.
Ouais, très, très
Gandhi
fort,
qui s'appelle GAN maintenant.
Ouais,
tout à fait. Pour le coup, je le trouve super fort aussi. J'adore pas le morceau qu'on a fait. Le morceau, il s'appelle J'ai bu. Il est sorti, je crois, en 2011 ou 2012. 2011 ou 2012, peut-être 2012 plutôt. Et donc il y a ça qui s'est passé, ok. Ça faisait 2 ans que je faisais des prods. Entre temps, après ça, il y a eu, j'ai fait 1 ou 2 morceaux sur l'album commun de Gizmo, Mokless et Desporuti, qui s'appelle Jamais 203. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de cet album.
Je me rappelle très bien.
Ça a pas cartonné, mais bon voilà, si tu t'en souviens.
Donc tu passes quand même, comment tu, dès le début, tu bosses avec Gandhi qui avait quand même déjà une petite carrière, tu bosses avec Despo et compagnie, enfin c'est pas mal pour un début, j'ai envie de dire. Tu disais que ça faisait 2 ans que tu prodais, quoi.
C'est pas mal, mais si tu regardes, tu sais, c'est entre guillemets, après j'ai pas poussé le truc, mais c'est entre guillemets tout ce qui s'est passé en 5 ans quand même, tu vois, entre 2010 et 2015. Ouais. Donc Gandhi, c'est venu par un très bon ami à moi qui s'appelle Jimmy, Niso Nizer sur Insta,
allez le suivre.
C'est lui qui connectait, il avait même connecté avec la fouine aimait des prods, etc., mais bon, ça s'est pas fait. Et ensuite, le Gizmo, Despo et Mokless, ça s'est fait par YKW. Et c'est Pills, de mémoire, qui est le mec qui m'a fait commencer à faire des prods. C'est lui qui avait la connexion, je crois. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Mais, tu vois, ça reste un peu léger, tu vois, sur 5 ans quand même. Bon, même si au début, tu vas pas placer beaucoup. Mais après, c'est léger, mais en même temps, j'étais pas entre guillemets, en chasse de, tu vois, de ces placements-là en France. À me dire, faut absolument que je fasse ça. Je me suis... au bout de 2-3 ans, je me suis assez rapidement concentré sur c'est avec Ross que je veux bosser. Pas parce que comme je te dis, pas parce que c'est des Américains, c'est juste moi ça me plaît plus. C'est ça qui me fait vibrer en fait. Et du coup, c'est
marrant cette approche parce que il y a pas tant de modèles entre guillemets de français, tu vois, qui tout de suite top les États-Unis comme ça, et toi tu avais cette ambition de dire moi c'est avec des Américains que je veux bosser, alors que c'est pas si courant franchement, tu vois.
Alors quand tu dis c'est pas si courant, c'est pas courant d'avoir cette ambition ou c'est pas courant d'y arriver?
Bah les deux, c'est-à-dire que l'ambition parfois provient aussi du fait que t'as des modèles entre guillemets, que tu vois que des gens l'ont fait, etc., et que ça te pousse à te dire bah moi aussi je peux le faire, tu vois. Et là, autant ça se fait beaucoup plus dans d'autres styles musicaux, d'ailleurs dans la pop, etc. On fait appel à des producteurs français, dans la musique électronique n'en parle pas.
Encore plus.
Dans le rap, un peu moins, tu vois, quand même. Mais toi, t'avais quand même cette idée.
En fait, si tu veux, j'étais inconscient, je sais pas où, mais c'était en fait comme c'était sincèrement ce que je ressentais, ce que je voulais faire. Je me voyais pas en gros compromettre ou travestir ce que je voulais vraiment, à me dire bon bah je voudrais bosser avec Ross, mais vas-y, j'y arriverai jamais. Tu dis bon bah c'est ça que je veux faire. On va tout faire. Par contre, on va vraiment tout faire pour y arriver. C'est-à-dire que c'est pas travailler 1 heure par jour et se dire je vais travailler avec Ross. C'est-à-dire que quand t'as des ambitions de ce style-là. C'est un conseil que je donne quand on m'en demande. c'est que faut que ton style de travail et même ton style de vie après, parce que ça prend tellement le pas, faut que ça aille avec cette ambition. Donc quand je me suis fixé cet objectif, et c'est, je me suis même pas dit alors c'est quoi mon objectif de vie, c'est ça, c'est juste vraiment c'est ça que j'ai envie de faire, c'est trop évident pour moi que c'est ça qu'il faut que je fasse. À partir du moment où j'ai ressenti ça, j'étais vraiment déjà que j'étais focus, je me suis vraiment mis en mode,
en mode charbonneur.
Ouais vraiment, ouais. Même si comme tu dis j'avais pas nécessairement d'exemple tu vois pour me montrer que c'était possible, etc. J'avais pas réfléchi à ce truc là
il y a une phrase qui résume, enfin moi que je trouve possible. Très belle et qui résume très bien ce truc là, c'est il savait pas que c'était impossible alors il l'a fait. Et moi j'adore cette phrase, et
exactement,
moi c'est le mindset, tu vois, c'est ce truc.
Je crois que c'est Fianso aussi qui utilise ça dans un couplet d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, il la tourne d'une certaine manière.
Ouais. Mais c'est ce concept là de dire ouais, si tu te poses pas la question et que tu fais des trucs que si tu te posais la question potentiellement tu les ferais pas. Et ça c'est beau.
Non mais c'est certains parleraient d'inconscience, d'autres diront bah c'est le mec qui croit en eux et tu vois, et qui ont des rêves, et il faut le faire à un moment quoi, tu vois. Bon, l'équilibre est toujours compliqué, ça. C'est un truc dont on a déjà parlé dans l'émission, évidemment. C'est est-ce que lorsque t'as des ambitions artistiques, tu veux en faire ton métier, est-ce qu'il faut se lancer corps et âme là-dedans? Est-ce qu'il faut trouver une forme d'équilibre? Est-ce qu'il faut aussi, tu vois, ménager le fait bah, que t'as un entourage, que toi, faut t'assurer aussi un avenir? Enfin, ça, c'est une pagaille absolue. Je sais pas si c'est un thème qui te touche ou.
Bah, si, forcément. Après, si tu veux, je l'ai fait au bon moment, je pense, parce que j'ai commencé à faire des prods, j'avais 20 ans. Bon, ça peut être un peu tard pour certaines personnes, mais ça reste une période de vie où t'as pas de responsabilité. Ouais. Tu vois, j'étais encore en cours. Et en plus, quand j'ai fini les cours, en fait, 6 mois après, j'ai eu mon premier placement. Donc, tout s'est assez bien enchaîné. Mais en fait, tu vois, tu parles d'y aller corps et âme. Pour moi, c'est certes, ça peut être dangereux pour ton avenir. Mais en vrai, c'est encore plus dangereux, je pense, mentalement et émotionnellement. Parce que quand tu te mets corps et âme dans un truc et que tu mets vraiment toute ton énergie et que tu crois, etc., et qu'en plus ça te passionne, l'échec à ce moment-là,
il
est encore plus difficile à accepter.
Tu l'as vu autour de toi, ça, des gens qui espéraient, ou Michel, toi d'ailleurs, des gens qui espéraient, puis finalement ça s'est pas passé comme ça, et on en parle peu en fait, tu sais, il y a toujours success stories. Ouais.
Moi je crois que je suis pas trop d'accord avec ça, parce que pour moi, genre, t'essayes, et si t'arrives pas, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi c'est tu le fais en plus quand tu le fais tu prends du plaisir en le faisant,
tu évolues dans le sens où il y a pas de date limite.
Non, donc
là dessus je suis super d'accord avec toi,
il y a pas d'échec,
mais ça peut créer une forme de frustration quand même,
tu
investissement que normalement tu dis potentiellement
ça devient dur, tu deviens aigri, ça devient plus dur ce machin.
Après je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait pas de date limite, mais après il y a un moment où la vraie vie entre guillemets, tu vois, tu dois, si tu génères aucun argent là-dedans, ça veut dire que j'aurais pu ne pas travailler avec Rick Ross, mais générer de l'argent et vivre de ma passion. C'est pas un échec. Mais après, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Tu vois, si je me suis, tu sais, j'en avais tellement envie, et je pense que c'est plus voilà ma façon d'être, où c'était tellement important pour moi et j'ai mis tellement de temps, de passion, etc. Je pense que c'est plus de l'ego après. De se dire putain, je croyais que je pouvais, j'ai tout fait et j'y suis pas arrivé. C'est plus pour l'ego que ça fait mal en fin de compte. C'est ça en vrai. Je réfléchissais peut-être plus à ce risque-là de mon côté. Tu vois, mais après bien sûr que tu l'as dans un fond de ta tête, tu dis bon là j'ai 23 ans. C'est quoi ma, tu vois, en vrai il devrait pas y avoir de date limite, mais c'est quoi ma date limite, tu vois.
Je capte.
Mais ça s'est bien enchaîné.
Il y a si tu veux bien élargir un peu le débat, tu sais, parler un peu plus placement de prod de manière générale, avec ton expérience évidemment, mais je me suis fait une remarque, vous me dites tous les deux ce que vous en pensez, c'est que historiquement dans le rap, il y avait quand même beaucoup plus de groupes et de collectifs. Et souvent, le groupe ou le collectif avait un beatmaker attitré.
Ouais.
C'est-à-dire que tu avais un mec, voire qui faisait partie intégrante du groupe.
Ouais, ouais carrément.
Il y avait vraiment un travail comme ça.
DJ K-Ops.
Ouais, bah, exactement. Aussi, ouais.
Et ça n'existe quasiment plus. Les collectifs déjà dans le rap sont, même juste de rappeurs, sont amoindris de ouf, enfin c'est beaucoup moins courant. Et comment, quel regard vous portez tous les deux, peut-être Tark dans un premier temps, tu nous diras, Michel aussi, ce que tu en penses, sur ce changement? Est-ce que ça signifie un changement de la musique aussi, du rap spécifiquement? Est-ce que c'est un truc, même on peut avoir, tu vois, une vision un peu culturelle du truc? Est-ce qu'il y a une forme d'individualisme plus exacerbé? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est juste qu'aujourd'hui, t'as plus de gens qui ont envie d'être libres dans leur pratique artistique et d'aller voir à droite et à gauche? Quel regard tu portes un peu sur ce changement?
Moi, je pense que c'est d'abord une question d'offre et de demande. Ouais. C'est-à-dire que, à l'époque dont tu parles, c'était pas monnaie courante, tu vois, d'avoir des producteurs, des beatmakers. Déjà, les machines à coûter cher, puis c'était un peu plus compliqué pour s'en servir, fallait savoir ce que tu faisais, etc. Donc, peut-être des beatmakers à Paris, je vais te dire une bêtise, il y en avait peut-être 30, tu vois. Donc, en fin de compte, je pense que ces rappeurs, ils se disputaient plus les beatmakers que l'inverse. tu vois, parce que bah qui fait des prods, faut aller les chercher les prods. Bon, il y a pas 40 000 mecs, tu vois. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, t'as tellement de producteurs maintenant que c'est devenu, bah comme tu dis, là faut se bagarrer pour avoir le placement sur l'album des mecs. Mmh. Et ouais, après quel regard je porte dessus, j'ai ni bien ni mal, tu vois. Mmh. C'est cool qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de la musique, mais c'est vrai que d'un point de vue peut-être artistique, ça a non, aseptisé, c'est trop péjoratif, mmh. mais ça a uniformisé un petit peu, tu vois, ce que tu devais faire pour placer. Et mmh. je pense qu'il y a pas mal, enfin c'est pas je pense, je le sais même parce qu'on m'en parle, il y a pas mal de producteurs qui disent j'aimerais faire ça, mais je vais faire ça pour pouvoir être sur l'album de mmh. un tel et un tel, mmh. tu vois.
Mais ça devient du sur-mesure. Bah après, moi, je pense qu'il y a un contre-pied à ça en ce moment, qui est... c'est plus peut-être des duos, tu vois, genre un mmh. Freeze Flame, Val Sizi,
ouais, ouais.
tu vois, et t'as des
ouais,
binômes
ça existe
comme
encore,
ça.
Hein, bien sûr.
Et même s'il n'y a pas ce même truc de la même importance que, mmh. voilà, dans I Am, tu savais, DJ Khaled, c'est DJ Khaled, mais il y a... Il commence à y avoir ce truc aussi parce qu'il y a tellement de beatmakers maintenant qu'il y a suffisamment de beatmakers que pour qu'ils soient suffisamment nombreux à dire respectez-nous, créditez-nous, machin, ah ouais. etc. Et à avoir ce truc de dire ben non, en fait, si on fait rien, ben en fait, vous rappez a cappella. Tu vois, donc, tu vois, il faut.
C'est vrai que d'ailleurs, pour appuyer ce que tu dis, il y a eu un moment où il y a eu un boom absolu de la type beat.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'on en est revenu un peu quand même.
Peut-être, ouais.
Je me rends pas compte, j'ai peut-être pas assez de recul, mais que ça fait. Qu'on appuie un peu plus sur la collaboration, effectivement. Mmh. On pourrait parler aussi de Skred Orelsan, etc. Parce qu'il ouais. y a eu Buzz récemment, on en a beaucoup parlé quand même. En plus, avec le documentaire, on voit bien que les deux allaient de pair et que l'un sans l'autre, c'était compliqué. Mmh. Enfin, quoi que tu me diras, Skred, peut-être qu'il aurait pu lui se débrouiller tout seul. Orelsan, je suis moins sûr. Mais effectivement, peut-être que t'as raison, que ça fonctionne non plus comme un grand collectif, etc. Mais qu'il y a quand même des duos qui naissent comme ça et qui ont, et même si le beatmaker, en l'occurrence, ouais. il est capable, tu vois, d'aller bosser avec d'autres gens, mine de rien, il a cette espèce de fil conducteur ouais. avec un artiste spécifique ouais. quand même.
Après, je pense que c'est un certain type d'artistes
ouais.
où justement ils sont eux dans une démarche artistique parce que tu vois je trouve ça grave bien qu'un artiste réponde ce que tu dis, c'est-à-dire quand un beatmaker lui dit si je suis pas là bah tu auras pas capella, qu'ils disent pas bah, je m'en fous je prendrai quelqu'un d'autre ouais. mais t'as plein d'autres artistes ou artistes entre guillemets qui justement ne sont, bah enfin c'est des rappeurs qui sont pas dans une démarche artistique mmh. et qui vont dire bon bah puisque tu veux pas ou même puisque t'es trop cher je vais prendre un autre tu mmh. vois. Et là, t'es plus dans une démarche artistique du tout. Mmh. Donc, ça existe encore ce truc d'aller de pair, mais faut que y ait une recherche artistique de la part de l'artiste, mmh. tu vois, que ça l'intéresse même, que ça soit pas juste un business ce qu'il est en train de faire.
Bien sûr.
Puis souvent, c'est des petits qui grimpent ensemble, on va dire. Tu vois, c'est
ouais,
des
plus,
gens
ouais.
qui sont là et en vrai, c'est genre souvent c'est de la proximité géographique, ouais, tu vois, ouais. des trucs comme ça. Et puis après, il y a des affinités qui se créent avec ce truc-là.
Bien sûr. Puis il y a deux éléments qui ont joué beaucoup, je pense aussi dans le phénomène dont on parle. Le fait qu'aujourd'hui il y a plus cette culture, il faut placer les pros, c'est-à-dire voilà, on contacte les mecs directement, en disant ça t'intéresse pas ce que j'ai fait, etc. Qu'il y a moins de collectifs et compagnie. Je pense qu'il y a deux trucs, c'est évidemment la révolution MAO.
Ouais.
Tu parlais de cette époque en fait où on avait besoin des producteurs, en fait c'était tellement rare. En général, le mec qui devenait le beatmaker, c'est le type qui avait un peu de matos à la maison et qui pouvait accueillir les gens. Il accueillait tous les gens du quartier en général.
Ouais. Donc bah, ça sera lui.
Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut bien avouer que la musique assistée par ordinateur, ça a révolutionné le truc. Aujourd'hui, okay. chacun dans sa chambre est capable de le faire, etc. Et je pense aussi quand même qu'en parallèle de ça, ça c'est pour moi c'est une chance parce que ça offre à chacun de s'exprimer, une manière de s'exprimer artistiquement, etc. C'est trop bien. En parallèle, par contre, il y a eu aussi une évolution, alors dans le côté très professionnel de l'industrie musicale, qui a amené globalement à se reposer beaucoup plus sur l'artiste doit se démerder tout seul, doit être capable d'avoir un produit quasi fini, etc. On l'accompagne moins et c'est aussi une facilité économique. Et je pense que ça a aussi participé à l'essor de ce genre de profil. C'est maintenant c'est la jungle. Chacun se démerde, devient fort dans ton coin. Et puis quand tu commences à avoir un vrai buzz, là éventuellement, on peut t'accompagner.
Ouais,
on va pas te développer, tu vois.
Ouais. C'est très rare, effectivement, le développement d'artistes qui partent de rien, en fait.
Ouais.
Genre, ah, j'ai vu ce mec-là, il a 300 vues, mais il est trop fort, on part sur lui. Non, on va regarder, ok, il fait 100 000, donc on estime que dans 2 mois, il pourra en faire 200. Donc, on va quand même. C'est vrai que c'est comme ça maintenant. Ouais.
Je pense qu'on sort aussi d'une espèce de zone tampon où, oui, il y a eu cet essor de la MAO, il y a eu beaucoup d'offres. Et en fait, là, on se rend compte. Je pense que les artistes et les binômes d'artistes, etc., se rendent compte que si t'es pas un peu radical, c'est difficile de faire parler de toi. Tu vois, radical, pas forcément dans ce que tu dis, mais dans la proposition artistique.
Ouais, ouais.
Et que du coup, en fait, tu peux pas faire la même chose que tout le monde. Tu peux pas, parce que sinon, t'es noyé. Comment, c'est quoi la diff entre toi et un autre? Donc, je pense que on arrive maintenant à un tournant. On a eu, tu sais, cette période où, voilà, il y a eu faut se réadapter. Et là, maintenant, on revient dans un truc où on arrive à des vraies propositions artistiques. où ça recommence à redevenir chaud, je trouve.
En tout cas, t'as les scènes en parallèle et t'as ça qui existe beaucoup plus. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs qui se font encore à la chaîne aujourd'hui, quoi.
Ouais, bien sûr.
Petite question quand même, parce que donc là, on essaie d'avoir une vision un peu plus globale sur le mouvement, notamment en France. Repartons aux États-Unis, si tu le veux bien, parce que le switch quand même, on disait donc Lil Wayne, premier placement sérieux 2015, et en fait, en amont, t'as en 2014 la rencontre avec Street Runner. Mm-hmm. Comment ça s'organise de travailler avec les États-Unis? Alors, peut-être tu peux nous dire juste rapidement comment t'as fait cette connexion américaine, dont on a déjà souvent parlé, donc peut-être, mais au moins résumé pour ceux qui nous suivent. Mais surtout, comment on gère tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir un représentant sur place? Est-ce que quand il faut signer des contrats, t'as un mec sur place? Comment tu t'assures de pas te faire avoir aussi? Parce que ça peut être un milieu compliqué, la musique, parfois.
Bien sûr, ouais. Du coup, pour revenir sur la connexion, j'ai envoyé de la musique à Street Runner via la plateforme Blazetrack.
Blazetrack qui met en relation en fait des...
Voilà, excuse-moi. Donc Blazetrack qui met en relation des... Je sais pas comment on peut dire, des anonymes, des internautes, tu vois, avec des gens de l'industrie. Donc ça peut être des producteurs, ça peut être des managers, des A&R, toutes sortes de choses. Mmh. Et du coup, bon, avant Street Runner, j'avais contacté pas mal de monde, tu vois, et ça, j'avais eu plein de bons retours de producteurs dont je suis fan, mais on n'avait pas passé le cap de vraiment travailler ensemble. Et j'ai contacté Street Runner, elle a beaucoup aimé ce que j'ai fait.
Qui était un producteur déjà établi.
Ouais, très bien, très établi. Ouais. Moi, j'étais fan de lui, donc quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit, ah, direct, je lui envoie. Mmh. Et il m'a fait une réponse rapidement, il m'a dit qu'il kiffait ce que je faisais, etc. Et à partir de là, on a commencé à faire des morceaux. Et là, tu vois, je peux rebondir sur la question que tu poses par rapport au fait de se protéger, etc. Mmh. C'est pas nécessairement un conseil que je donne, mais moi, je me suis pas protégé. Mmh. Parce que, tu vois, je lui ai envoyé des instrus. Il m'a dit, envoie-moi le piste par piste de ce morceau-là. Et je me voyais pas lui dire, attends, faut d'abord que je la protège ou faut qu'on fasse un contrat pour que je t'envoie des pistes par piste. Parce que je voulais pas... Je pense qu'il aura peut-être même pas mal pris, hein. Mais je voulais qu'on soit dans un truc cool, dans une relation, tu vois, qui est pas forcément d'avocat entre nous ou de confiance. Donc je me suis dit, je prends le risque de lui faire confiance. Si je me fais baiser, bah je me ferai baiser. Mm. Mais je pense que j'ai plus à gagner à prendre ce risque. Et de toute façon, dans la position où moi je suis, c'est à moi de prendre les risques. J'ai plus besoin de lui qu'il n'a besoin de moi, tu vois. Ou en tout cas, tu vois. C'est ce que je me suis dit à l'époque. Mais donc voilà, donc j'ai commencé à lui envoyer des instrus plus régulièrement, on discutait par mail, etc. On faisait une petite instru par mois à peu près. Donc on a commencé en avril 2014. Moi, j'étais encore en cours à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, tu vois, pareil, c'est un truc que j'ai ressenti. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille le rencontrer, il faut qu'on se voit en vrai, il faut qu'on...
Est-ce que vous avez Michel, il y a un moment quand même où tu t'es dit, il faut aller sur place, quoi.
Je me suis dit, il faut aller sur place. Que, comme je te dis, on a commencé en avril. Moi, mes cours finissaient en octobre, mes derniers examens, etc. Donc, le lendemain de mon dernier examen, je suis parti à Miami. Donc, je lui ai dit, voilà, je serai à Miami, etc. Moi, j'y allais pour lui, vraiment. Mais je lui ai dit, je serai à Miami, parce que je voulais pas l'angoisser. Tu vois, je voulais pas, genre, je viens pour toi, et tu vois, ça, c'est peut-être une pression en plus. Donc, je lui ai dit, écoute, je serai à Miami, si tu veux qu'on se voit. Du coup, je suis allé à Miami 2 mois. Et on s'est capté. Au-delà de se capter, je me suis dit, tiens, on va peut-être être en studio ensemble. Et je vais pouvoir lui montrer que je peux faire beaucoup plus qu'une instru par mois. Je vais pouvoir lui montrer que je peux vraiment, limite, devenir indispensable, tu vois, à tout son processus, etc. Et donc, en fait, quand on s'est vu, on a fait à peu près tout sauf de la musique. Tu vois, on est sortis, ciné, machin, resto, des trucs comme ça. Et bon, on faisait de la musique, mais pas ensemble, tu vois. Moi, j'avais ma petite baraque que j'avais louée. Et tu sais, il m'envoyait des samples, ou moi, je lui envoyais tous les trucs que je faisais tous les jours, etc. Et pendant ces 2 mois, bah, à force de se voir, et puis après, le lendemain, je lui envoie un son, et puis lui, ça l'incite lui à m'envoyer un autre truc. On a créé une relation de travail plus importante. Et même, on est devenus potes, tu vois. Et du coup, je suis rentré en décembre. Là, on a commencé à travailler un petit peu plus. Je suis reparti peut-être 3-4 mois après. On s'est recapté, et voilà, à partir de là, on a commencé à vraiment, vraiment travailler étroitement. Jusqu'à maintenant, tu vois, je fais plus une instru sans lui, et vice-versa. À être un duo en fin de compte. Et donc, comme je t'ai dit, décembre, je suis revenu. Je crois que je suis reparti en mars ou avril, ou j'ai dû repartir un mois peut-être. Et juillet suivant, Lil Wayne sortait. Mais du coup, c'est moi qui y suis allé. J'avais pas de représentant, j'avais pas de. pour être honnête, même, je savais même pas ce que c'était vraiment d'avoir un représentant ou un manager, tu vois. Je me suis juste dit, bon, bah, je vais y aller moi et on voit ça.
T'avais pas conscience à l'époque d'histoire de droit, par exemple, ou même de dire si on place un truc, comment je collecte l'argent, etc. Tu pensais déjà à ça ou...
Si, mais enfin, franchement, j'y pensais pas. Ouais. Mais je pense que j'en avais conscience, tu vois. Je sais très bien qu'il y a des, ce qu'on appelle les droits d'auteur, mais bon, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais du coup, j'ai eu pas mal de, enfin, je sais pas mal, j'ai eu beaucoup de chance avec Street parce que c'est un mec archi droit. Il m'a vraiment pris sous son aile, tu vois. Il m'a fait éviter beaucoup de choses que lui avait traversé et qui était relou, et en fait j'ai été tout de suite dans un confort parce que bah, pour négocier les prods, les droits, c'est son avocat, donc c'est devenu mon avocat, etc, etc. Donc en fait tout s'est fait de manière hyper fluide et j'ai pas eu à réfléchir à tous ces aspects qui peuvent être chiants ou moi j'ai pas spécialement envie de traiter sur ces trucs-là, tu vois, je suis un peu fainéant sur les trucs comme ça, même si c'est hyper important. Et du coup, c'était une situation parfaite pour moi parce que bah j'ai juste eu à me mettre en, entre guillemets dans le truc et voilà, j'ai suivi. Et ok, on fait comme ça, je prends le même avocat que toi. Et puis de toute façon, j'ai signé un contrat après de management avec lui. Qui court même plus.
C'est ton manager en fait. Enfin, ça a été ton manager en gros.
Ouais, mais enfin en vrai, c'était sur le papier, tu vois. Ouais. Parce que on n'avait pas besoin de. Là aujourd'hui, je suis même plus sous contrat avec lui, je crois. Faudrait qu'on vérifie, mais. Ça a pas vraiment de valeur maintenant. C'était juste peut-être au début de dire bon bah on signe un truc entre guillemets pour être sûr, tu vois, mais en vrai ça on l'a jamais relu ce contrat, on s'est jamais référé à ce contrat, on a toujours fait les choses justement en fait. Et du coup voilà, j'ai eu cette chance d'avoir déjà tout un système établi et d'avoir juste à me greffer en fait.
Est-ce que aujourd'hui tu es un peu plus au courant des différences entre les droits d'auteur, par exemple, français, américain, ouais, machin, ouais. etc. Moi, ouais, j'ai entendu dire, parce que moi, là, je suis pas encore trop là-dedans, que les droits de paternité en France sont inaliénables, alors qu'aux États-Unis, tu peux les vendre. Et genre même, en fait, dans les contrats de base, tu n'y as pas droit.
Tu parles du droit moral en particulier, non ? Ou c'est-à-dire tu peux choisir un peu de quelle manière est diffusé. En France, par exemple, tu peux stopper, tu peux dire « Là, s'il y a un de mes morceaux au meeting de Marine Le Pen, je ne veux pas que ce soit possible. » Et okay. Je ne sais pas si c'est possible.
Franchement, là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Ouais. Je n'ai aucune idée.
On n'a jamais utilisé tes morceaux d'une manière qui te convenait pas ?
Pas que je sache... à moins que j'ai pas été rémunéré pour, ouais. Mais il y a toujours, je dois toujours signer, tu vois, s'il l'utilise pour une pub, pour un film. Du coup, non, j'ai jamais eu de truc un peu, enfin, qui me déplaisait. Donc, franchement, j'ai pas du tout de réponse là-dessus.
Parce que quand tu parlais de paternité, en fait, t'entendais quoi par.
C'est littéralement le mot que Pandrez m'a dit et que je répète comme un perroquet.
Ok.
Je ne sais pas du tout de quoi il parle.
Ok.
Mais du coup, comment ça fonctionne entre le moment où toi. Tu produis, t'as fait une prod, tu l'envoies à un artiste, il dit ok. Déjà, est-ce que c'est toujours comme ça maintenant ou est-ce que des fois, est-ce que tu t'es déjà retrouvé en studio avec Rick Ross à composer avec lui
Non, je me suis jamais retrouvé en studio avec Ross, mais c'est à peu près comme je me suis retrouvé avec des artistes en France, parce que là, je passe la plupart de mon temps en France. Mais Street, lui, ouais, est parfois en studio avec des artistes. Donc le mieux, évidemment, c'est cette configuration là. Mais maintenant, ça va. Tu sais, les mecs, ils ont des vies, ça va. Puis il y a pas mal de monde. Donc, c'est pas toujours faisable. Donc, soit, effectivement, il a une session studio et du coup, ils jouent des trucs et là, ils font des morceaux sur place. Et c'est toujours là qu'on a le meilleur résultat. Soit, il a des contacts plus ou moins proches avec les artistes et on envoie. Tu vois, des artistes à qui il envoie par texto, par exemple, comme Khaled. Il lui envoie les instrus directement par texto ou un mec comme 2chainz, c'est pareil, il lui envoie comme ça. Ou sinon, il a les mails des ingés, ou il a les mails du mec directement, tu vois.
Okay.
Donc, il y a un peu tous les cas de figure.
Okay. Enfin, et à partir de ce moment-là, l'artiste, il valide. Toi, comment ça se passe? Tu prends un flat et des droits d'auteur à côté, ou pas du tout, juste droits d'auteur ou...
Non, un flat et droits d'auteur.
Ouais.
Juste pour expliquer un peu, flat, droits d'auteur. Enfin, si tu peux nous dire, pour ceux qui ne maîtrisaient pas forcément, en tant que compositeur, à quoi tu as le droit et comment ça se passe spécifiquement aux États-Unis? Comment tu récupères l'argent aussi d'ailleurs?
Bah, ça se passe, je pense, un peu comme en France. Après, ça dépend comment les gens le négocient, mais en gros, on est payé pour l'instru, pour l'utilisation de l'instru. Donc demain, il y a un album qui sort, on est payé pour qu'ils aient le droit d'utiliser cet instru. Et ensuite, l'album et le morceau vont vendre tant. Et on va être rémunéré en fonction de ces ventes-là par ce qu'on appelle les droits d'auteur ensuite.
On sait qu'en France, c'est la SACEM qui collecte et qui ensuite reverse aux auteurs, compositeurs, etc. La SABAM en Belgique.
Oui, tout à fait.
Aux États-Unis, il y a un équivalent. Est-ce qu'ils se mettent ensuite en contact avec la SACEM? C'est la SACEM qui te paie? Comment ça se gère?
Alors, je sais pas si tu peux faire un combo avec la SACEM, mais il y en a deux aux États-Unis. Il y a ASCAP et BMI. Et c'est grosso modo le même principe, en fait.
Ok. Donc gros, quelqu'un collecte, enfin un organisme collecte voilà, et ensuite tu reverses l'argent.
Il me reverse l'argent.
Et en tant que Français, c'est pas problématique de s'inscrire ça au...
comme non, non, du tout.
Okay.
Du
ça tout, veut dire que toi, par exemple, t'es inscrit à la SACEM et à la SCAP ou à la BMI chez les deux, ou c'est la SACEM qui fait le taf pour ton travail dans le monde entier?
Non, moi je suis inscrit que chez la SCAP.
Ok, pas
à
la SACEM.
Je suis pas à la SACEM, non.
Okay. Est-ce que je me demande si la SACEM peut effectivement aller collecter à l'étranger? Je crois que ça se fait, non?
Ouais, ouais, ils me le font. Mais on m'a expliqué, alors j'ai pas l'expérience, mais on m'a expliqué que pour les droits aux États-Unis, bon, je pense que c'est pour les droits étrangers en fin de compte, ça met un an de plus.
Okay. Ah ouais?
En gros.
Okay.
Je sais pas si c'est une vraie info, mais c'est ce qu'on m'a dit.
Ok. Et du coup, ça veut dire que c'est l'ASCAP qui collecte tes droits aussi en France?
Ouais.
Genre, tu vas collaborer avec l'ASCAP, c'est l'ASCAP qui
va faire. Exactement. Ouais.
Ok.
Ouais. Intéressant. Je sais pas si je pourrais faire ASCAP, États-Unis et SACEM France. Je sais pas si ça se fait. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, je déteste faire les papiers, donc ouais. Je reste à l'ASCAP.
Ok.
Et j'aimerais bien qu'on revienne juste sur un peu comment, entre guillemets, c'est terrible, mais je pense que c'est la réalité. Utiliser ce mot, c'est on démarche. Entre guillemets, en tant que compositeur, producteur, des artistes, interprètes. Comment ça se passe? Alors, on a bien compris que toi, il y avait une particularité, c'est quand même c'était les connexions de Street Runner qui ont facilité, entre guillemets, les choses, si je puis dire.
Ouais, bien sûr.
Comment ça se passe? C'est du réseau, principalement? Est-ce que non, c'est qu'il y a d'autres aussi façons de contacter ces gens-là? Est-ce que parfois il y a du hasard et c'est même l'artiste de lui-même qui va venir te voir? Comment on démarche? Comment on place aux États-Unis en particulier, tu vois?
Bah, dans 90% des cas, c'est du réseau. Ça nous est arrivé qu'un artiste nous contacte directement, mais la plupart du temps, c'est du réseau et du CV, en fin de compte.
Ouais.
Tu vois, bon, bah, Street, ça fait 20 ans qu'il est dans le game, à peu près, donc il connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Et après, c'est des échanges de bons procédés. Tu vois, on peut, par exemple, on peut dire on peut contacter un ingé et lui dire, écoute, si tu joues nos morceaux à tel mec, à l'artiste que t'enregistres et qu'on le place, bah, on te donnera tant de publishing, de droits d'auteur, tu vois. Donc c'est plein de trucs comme ça en fait. Tu te débrouilles d'une manière ou d'une autre pour atteindre des mecs parce que aux États-Unis en plus c'est des grands territoires. En France tu peux te faire un réseau assez rapidement en fin de compte. Mais aux États-Unis c'est très grand, tu vois. C'est pas parce que tu connais du monde à Atlanta que tu connais forcément du monde à 3000 km à l'ouest, à Los Angeles, tu vois.
Bien
donc
sûr.
C'est un petit peu plus compliqué. Donc on essaie d'avoir des points d'ancrage à droite et à gauche, tu vois, de mecs. Tiens, lui, c'est un A&R, mais il connaît aussi un tel, donc il pourra envoyer des trucs pour un tel. Et lui, c'est mon pote, il pourra me mettre en studio avec un tel. Il s'avère que c'est son pote qui a signé, tu vois. C'est comme ça, en gros. Et après, c'est aussi d'essayer de démarcher de notre côté, tu vois. Après, il y a aussi le fait qu'on bosse avec Khaled, qui fait que lui aussi, des fois, il fait des morceaux pour d'autres artistes, comme récemment avec Mary J. Blige. C'est un morceau qu'on a fait ensemble, donc on bénéficie, lui, de son réseau à ce moment-là. Donc il y a vraiment pas mal de cas de figure en fin de compte, mais c'est beaucoup de réseaux.
Ouais, ouais. Mais ça c'est un truc que je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais depuis le début de la discussion avec Tarek, que ce soit au début même juste avec Gandhi, etc., on sent que les relations humaines, la connexion, le fait d'avoir des gens autour de soi, etc., ça fait une grosse partie
c'est
du taf. En fait.
C'est essentiel, c'est crucial, parce que tu peux faire des super morceaux et ils sont chez toi et il y a personne qui les écoute et voilà. Ça changera rien pour toi. Donc effectivement le fait de faire de la très bonne musique à proposer c'est l'étape 1, mais ensuite faut réussir à la faire entendre.
Rappelons à tous les artistes notamment qui essayent de se professionnaliser en développement, etc., c'est que ce soit par internet d'ailleurs, c'est une forme aussi de réseautage mine de rien.
Bien sûr, crucial.
Je pense que il y a un moment où c'est important, parce que tu l'as fait toi-même avec Street Runner, où c'est important aussi de transformer ça en humain, etc.,
bien
quand
sûr,
même
sûr.
En relation directe. Mais crucial. Connectez-vous avec les gens, etc. Ça peut être que bénéfique.
Surtout à l'heure d'internet. Là, nous, on a. Je lisais les gens du Discord de Pandrez. Là, on a genre des gens qui suivent un peu tes traces. On a Artunok. Il est du 9-3 aussi.
J'ai discuté avec lui.
Il est incroyable.
Je connais pas. C'est un mec qui.
Sur SL2,
ouais.
Mais de Young Thug, ouais, c'était stylé.
Il est trop chaud.
Ouais.
Il y a qui. C'est. Ah, c'est qui? Il y en a un de cette clique-là. Genre, il y a Timbaland qui le follow sur Insta, il le partage.
Mais c'est Artunok, ça?
C'est encore Artunok?
Je crois, hein.
Ouais, c'est Artunok qui prend tout. C'est Artunok qui prend tout. Je pensais que c'était un autre.
Non, non, parce qu'on se suit sur Twitter, mais même sur Insta, et du coup, je vois
trop
des
fort,
trucs.
Trop fort.
Ouais, j'étais content pour lui quand il a fait ce morceau avec Thug.
Ouais.
Il y a une particularité, là, on parle un peu des connexions par Internet, etc. Tu le disais, parfois Street Runner, lui, va dans les sessions studio, rencontre les artistes, etc. Toi, ça t'est arrivé de te retrouver en studio avec les artistes pour lesquels tu plaçais ou...
Ça m'est arrivé en France. Ou un peu aux États-Unis, mais pas sur des énormes artistes, tu vois. Parce que le timing est tellement particulier, si tu veux, en fait, dans la plupart des cas, Street va savoir peut-être la veille ou 2 heures avant, ah, au fait, Ross, il est en studio ce soir, viens ce soir, tu vois. Ouais. Donc moi, si je suis aux États-Unis à ce moment-là, ça le fait, mais comme la plupart du temps, je vis en France, du coup, je suis pas, et du coup, ça se fait pas, quoi.
Est-ce que ça modifie la façon dont on s'approprie un morceau d'une certaine manière, ça? C'est-à-dire qu'il y a un rendu au final, qui évidemment c'est ta composition, c'est ta musique, et pour autant c'est plus exactement seulement ce que tu avais fait à la base, c'est transformé aussi, un mec a posé, etc.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que t'as, et sans avoir rencontré le type, sans avoir participé en studio à élaborer ça ensemble, alors j'imagine qu'il y a quand même des allers-retours via Internet ensuite, probablement.
Mais ça dépend.
Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où t'es dégoûté?
Ouais, alors, déjà.
T'envoies une prod, tu dis elle est chaude, il y a un rappeur, il pose dessus, c'est flingué, et tu diras je suis dégoûté.
Ou c'était pas ce que t'imaginais au moins, tu vois.
Ça m'est arrivé une ou deux fois sur des morceaux qui sont pas sortis finalement. Ouais. Tu vois, genre.
Parce que t'as mis le veto, t'as réussi.
Non, du tout. Street est en studio avec le mec, tac, ils font le morceau, ils me l'envoient, et tous les deux on se dit ouais, bon, pas ouf, tu vois. Mais franchement, c'est même pas pour cacher quoi que ce soit. J'ai aucun souvenir de morceaux qui soient sortis où je me suis dit ah putain ah non j'aime pas ce qu'il a fait où ça m'est arrivé de pas être d'accord avec le mix ça m'est arrivé pas qu'une fois d'ailleurs mais globalement comme c'est des artistes la plupart du temps que j'adore franchement j'ai pas eu de déception sur des morceaux
du coup toi après genre la prod elle est validée t'envoies des multis et du coup c'est les ingés de là-bas qui vont mixer etc
ouais en gros voilà une fois que ça part vraiment sur l'album on envoie le piste par piste et ensuite les ingés mixent après maintenant justement pour éviter qu'il y ait trop de différences parfois ce qu'on fait c'est qu'on lock les pistes ensemble tu vois on met plutôt que d'avoir piano, violon 2, machin séparément, hop, piste, musique. Voilà, comme ça tu peux pas la détruire, tu vois. Bon, on met la basse séparément, etc. Mais plutôt que faire un 32 pistes, on te fait un 8, tu vois. Comme ça, il y a certains trucs qui sont bloqués et ça bouge pas.
Parce que c'est vrai que les Américains, ils mixent un peu de manière dégueulasse. ça fait partie de leur esthétique, mais je trouve que c'est...
Il y en a certains, c'est trop compressé.
Les mix français sont beaucoup plus propre souvent, même si c'est moi je préfère l'esthétique cracra américaine et tout, tu vois. Mais moi j'entends une vraie différence en tout cas dans les top artistes français et dans les top artistes ricains. Genre, il y a des mix, genre, c'est il y a des gens ici, ils les laisseraient pas passer, tu vois. Ça sort pas, tu vois ce que je veux dire. Ça sature, c'est machin, tu vois. Il y a vraiment des trucs, mais vas-y, ça fait partie de l'esthétique et tout. Mais je comprends que si du coup toi t'envoies un truc, tu sais, c'est propre, c'est ce truc là, tu te dis ouais, là les violons, il y a bien de l'air et tout, tu vois.
Bah, il y a certains morceaux qui ont besoin de ça, tu vois. Je suis pas contre certaines pratiques, tu vois, quand c'est des morceaux trap, etc. Ouais, faut que ça cogne, mais il y a des morceaux qui ont pas besoin de ça, tu vois. Donc, c'est plus parfois j'ai l'impression que les ingés ils sont dans un automatisme. Et dire, bon, bah, ça, c'est une basse, je mets mon preset de basse, ça, c'est mon, tu vois. Et ça sert pas le morceau. Tu vois, ou même des fois, t'as pas besoin d'en faire trop, en fait. Tu sais, ça sonne déjà, ok, mixe la voix et ça suffit.
Et t'as pas l'envie de mixer, enfin, tu sais, genre, t'as pas cette sensation de temps en temps de te dire, ouais, j'aimerais bien avoir le contrôle sur le truc.
Déposséder le truc.
On a, ça dépend avec quel artiste, mais on a notre mot à dire sur certains morceaux, tu vois, où on fait des allers-retours avec l'ingé son. Ça dépend des ingé son, il y en a qui sont assez cool pour le faire. On dit, ah ouais, non, ça, j'aimerais bien que ce soit plus comme ça, etc., etc. Mais parfois, t'as pas c'est pas que je veux pas, c'est juste que j'ai même pas la possibilité, tu vois.
Ok. Mais du coup, moi, ce que je veux dire, c'est, est-ce que t'aurais pas envie de faire, je sais pas si tu l'as déjà fait d'ailleurs, je sais pas, genre une compile ou une tape à toi, ou vraiment tu produis les trucs de A à Z, c'est toi qui as ces trucs là.
Alors non, je l'ai jamais fait, mais ouais, j'adorerais le faire. Mais maintenant, je pense pas avoir encore les ressources nécessaires pour le faire. Je parle pas forcément financièrement, c'est plus il y a certains artistes que je voudrais avoir sur mon projet.
T'as déjà
si j'en faisais
une tracklist en tête?
Non, j'ai pas une tracklist en tête, mais je sais que je voudrais Recross sur mon album, je sais que je voudrais Mick Mill sur mon album, ou sur mon projet, je sais pas comment on peut l'appeler, et je suis pas sûr de pouvoir les avoir là tout de suite, tu vois.
Et tu mélangerais français et américain, si tu pouvais faire ça?
Je pense que je le mélangerais sur l'album, pas nécessairement sur un morceau, ou alors si ça a du sens, Mais
L'expérience prouve que
ça marche pas trop.
Ah, il y a quelques morceaux.
Non, il y a quelques morceaux qui
genre Gourou MC Solar, tu vois, ça claque.
Non, il y a des morceaux qui sont bien,
Mais la plupart du temps,
clairement pas. Donc si ça avait du sens, je le ferais, mais je pense que je séparerais, je prendrais mes artistes préférés US et mes artistes préférés français. Et voilà, ça partirait comme ça.
Faut qu'on revienne absolument, et on passe bientôt à la deuxième partie, où on parle vraiment du processus créatif, de ta règle, etc. Non, mais t'as raison, parce que c'était intéressant. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur cette idée, je te parlais un peu de s'approprier le morceau, entre guillemets, dans le sens où, prenons l'exemple. C'est quoi? C'est en 2020, Higher, DJ Khaled.
2019.
2019, pardon. Ouais. Donc, tu composes ce morceau.
Le Grammy.
Ce morceau est récompensé Grammy. Ouais. Et donc les trois compositeurs officiels de ce morceau, c'est toi, Street Runner et DJ Khaled. Mm-hmm. Vous recevez un Grammy donc commun entre guillemets. Comment tu le prends? Est-ce que tu as l'impression que ça célèbre ton travail? Est-ce que ça célèbre votre collaboration avant tout? Est-ce que tu te l'appropries de la même manière que si tu avais été seul à taffer dessus?
Franchement, j'ai jamais fait cette distinction de on est plusieurs dessus.
Ouais.
Parce que j'ai jamais, entre guillemets, volé un placement, tu vois. Mmh. Je sais ce que j'ai fait sur le morceau. Je sais que sans moi, ce morceau n'existe pas.
Mmh.
Tu vois, je sais que sans Street, ce morceau n'existe pas. Je sais que sans Khaled, ce morceau n'existe pas. Mmh. Donc, je sais que je suis pas venu rajouter un hi-hat et une ligne de basse et voilà, je suis dessus. Je sais que j'ai fait énormément sur ce morceau. Donc, franchement, j'ai pas de truc où je me dis peut-être que je me le serais plus pris encore si j'avais été seul. Mmh. Mais, et pour répondre à la première question, ce que ça m'a fait, ça c'est venu confirmer, tu vois, toutes les attentes que j'avais, c'est venu récompenser beaucoup de travail, même si j'étais déjà super fier, tu vois, de ce que j'avais accompli. Mais ça peut paraître bête, mais tu vois, ce truc-là de dire bon, là il y a un Grammy, c'est quand même un coup de, un point d'exclamation, on va dire, un peu plus fort, tu vois.
C'est incroyable.
Surtout que c'était avec Nip. Tu vois, quand il est décédé, ça m'a vraiment vraiment affecté. J'étais super fan de lui et du coup on a appris après sa mort que c'est nous qui faisions ce morceau,
parce qu'il apparaît sur le morceau Ailleurs. Oui, pardon,
ouais, il est sur le morceau Ailleurs, et du coup c'est un morceau qui a été fait de son vivant. Bah, le clip a été tourné évidemment de son vivant. C'est pas comme si on avait mis une instru sur un acapella, tu vois, c'est vraiment un vrai morceau qu'on a fait avec lui. Et du coup quand il est décédé, comme je t'ai dit, ça m'a vraiment marqué. Et on savait, Street et moi, que Khaled avait un morceau sur l'album avec Nipsey, mais on savait pas que c'était nous qui l'avions fait. Et du coup d'apprendre que déjà première étape d'apprendre que ce soit nous qui l'avons fait, c'était génial, tu vois. C'était sans vouloir en faire des caisses, c'était même une façon un peu de faire un deuil, tu vois. Et après de gagner un Grammy pour ça, ça arrive qu'une fois, ce genre de d'alignement de planète, tu vois.
Je pense symbolique en plus, particulier,
ouais. C'est ça. Puis en plus c'est un vrai morceau. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de, j'ai pas travesti ma musique pour pouvoir en gagner un, j'ai pas fait ce qu'on me demandait de faire, j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire, et on a fait ce qu'on avait envie de faire, et ça a donné ce morceau-là. Et du coup, c'est une consécration en vrai. Tu vois, j'aime pas forcément utiliser ce mot-là, mais franchement, c'est vraiment une consécration.
T'étais à la cérémonie ?
Non, j'étais pas à la cérémonie.
T'aurais voulu y aller ?
J'aurais pu y aller, fallait faire des démarches, machin, pour prendre des places, etc. Mais je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais rester chez moi tranquille. Et voilà, je suis resté à la maison.
Mais à travers l'écran, puis j'imagine que t'as regardé quand même.
Ouais, on a regardé en direct, bien sûr. Ouais.
Tu t'es senti investi, ouais, c'était pour toi aussi, tout ça, quoi.
Ah ouais, non, franchement, c'était super fort. Ouais. Je pense que c'est peut-être même le moment. Soit le moment, ou en tout cas un des moments les plus forts de ma carrière, tu vois. J'étais là, j'étais avec ma femme, mes amis, ma mère, qui était là à 5h du matin. Tu vois, ils étaient tous là derrière moi, machin, et le fait de voir. Tu sais, en plus, tu le vis vraiment en direct. Tu vois, c'est genre, t'as la tension de ok, ça y est, putain, c'est notre catégorie, ça fait 4 heures qu'on attend, tu vois. Ça y est, hop, vas-y, là, ils annoncent les nominés. Moi, je suis en train de tourner, tu vois, depuis 4 heures, je tourne dans le salon, là, quand ils annoncent.
Tu vois, comme un fou.
Exactement, parce que, tu sais, c'était de l'anxiété.
Quel moment.
Et du coup, bam, la meuf dit, ouais, DJ Khaled d'ailleurs. Donc, ouais, là, c'est. Franchement, tout était réuni pour que ce soit un moment encore plus fort.
On termine cette partie, avec quand même. Il y a un truc qui m'interrogeait, c'est. On a l'impression que ton défi aujourd'hui, c'est presque plus de placer en France qu'aux États-Unis. Déjà, rappelle-nous, t'as bossé avec qui ici? Tu citais Fianso tout à l'heure.
En tout cas, j'ai lu une interview qui date un peu ce que je te disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais été super agréablement surpris de comment ça s'était passé avec lui.
Ouais, ouais,
que
trop cool,
il y avait vraiment une vraie collaboration entre les deux, grave, qu'il a une vision, etc. Tu vois. Donc, c'est, moi, c'est cet exemple-là que j'ai retenu en particulier. Mais
Alka aussi, tu disais
Alka, on bosse beaucoup avec Alka en ce moment. Ouais. Je travaille aussi avec Def Jam sur un projet. Je suis pas sûr d'avoir le droit d'en parler maintenant, mais c'est pas vraiment un défi. Mais ouais, je suis un peu plus actif dernièrement en France. Mais sinon, avec qui, tu voulais que je te dise avec qui j'ai bossé?
Ouais, avec qui t'as déjà bossé, ouais.
J'ai bossé donc avec Fianso, avec Alka. Alors c'est francophone, mais c'est pas français, c'est Roynock. Mm-hmm. YL.
C'est chaud.
On a fait un morceau récemment avec Amine Farsi. Mm-hmm. Je sais pas si vous voyez ce producteur. Avec Maes, mais il l'a fait que sur, sur Skyrock, mais je le mentionne parce que j'ai tellement pas beaucoup travaillé en France. j'ai pas encore fait le tour sur, Gandhi, c'est francophone.
Il y a des artistes en France en ce moment qui te...
Moi, celui avec qui je veux absolument travailler et je pense que ça va se faire, c'est Freeze.
Ouais.
C'est Freeze qui me régale.
Ouais, je pense que vous êtes dans le même...
Non, mais ouais, non, on s'est vu plusieurs fois et tout. Tu vois, archi cool, on a grave bien accroché. Bah, via Amine, d'ailleurs, dont je te parlais, via Amine Farsi. Et du coup, ouais, on va se mettre à bosser pour son prochain projet. Je sais pas quand, mais en tout cas, c'est sûr que ça va se faire.
Trop chaud.
Est-ce que quand tu signes en 2016 avec Universal...
Ouais.
C'est dans l'idée d'avoir plus de connexions françaises.
Exactement, ouais.
Ça a fonctionné?
Pas vraiment. Ça a fonctionné. Ouais. C'est comme ça que je me suis connecté à Fianso. Mmh. Mais j'ai pas spécialement apprécié mon séjour chez Universal, sans que ce soit. C'était pas horrible, hein, c'était pas un traumatisme, mais c'était pas nécessaire, en fait. Je pensais que ça allait m'ouvrir plus de portes, et bon, ça s'est pas vraiment fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis sorti du deal. J'ai racheté mon deal, voilà.
Attends, on pourrait se dire quand même qu'un mec qui a posé pour autant de légendes, il y a plein de rappeurs français qui vont être derrière en disant « Viens bosser avec moi, Tariq ».
Bien sûr, après, ça vient peut-être aussi du fait, tu vois, que je suis pas à mort dans la mise en avant et que je suis pas forcément sur les réseaux, etc. Donc,
il y a ça, et puis il y a aussi le fait que t'es dans une spécialité esthétique qui a pas le grand coup en France en ce moment, tu vois.
Ouais.
Là, c'est pour ça, je pense, que la connexion avec Freeze, elle fait sens de ouf, parce que justement, pour moi, c'est un type qui est à fond dans la culture, qui écoute tout ce qui se fait et qui est passionné par tout ce qui se fait et qui du coup voit la valeur de ce truc-là, mais que il y a plein de rappeurs, ils veulent des Ninho Tap Beat et c'est tout.
Ouais, exactement. Et je pense il y a ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi le fait que je sois pas spécialement sur le devant de la scène, tu vois. Et
ça, tu penses que c'est un critère pour les rappeurs, du fait d'avoir un mec un peu rasta, un producteur rasta?
Non, c'est pas par mon statut qu'ils veulent pas travailler avec moi, c'est juste que je pense qu'ils me connaissent pas, tu vois. Vu que je suis pas super en avant, peut-être que les mecs savent tout simplement pas qui je suis, tu vois. Mais je pense que tu prends 90% des rappeurs français, tu leur dis « Ah bah tiens, il y a un tel Tariq qui veut travailler avec toi, il a fait ça », je pense qu'ils m'ouvriront la porte. Mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel j'ai forcé encore. Je pense que je vais un petit peu plus, enfin pas forcer parce que c'est péjoratif, mais je pense que je vais un petit peu plus m'y mettre cette année, à essayer de développer un peu plus de choses en France et faire plus de choses ici.
C'est le projet.
C'est un des projets.
Ouais. Et Alpha One, ça te chauffe?
Alpha, on s'est vu en studio, ouais, ça me chaufferait grave. On s'est vu, c'était pour Le Roi d'ailleurs.
Allez.
Ouais, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il y a un feat qui existe en tout cas entre Le Roi et Alpha One.
C'est vrai. Ouais. On verra si ça sort.
On verra.
Justement, passons à la deuxième partie de ce podcast, ton travail de composition, technique, etc. Et justement, Michel, tu disais qu'il y avait une esthétique particulière chez Tariq. Est-ce que tu peux nous en parler et on verra si tu es d'accord avec ça,
marche,
et comment
ça
tu définis toi-même ta musique.
Okay,
c'est quelque chose qui est très riche, je trouve, qui est très influencé par la soul ou de manière générale.
C'est assez luxuriant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
C'est la musique qui coûte cher. J'avais fait une vidéo sur la Maybach Music d'ailleurs, où pour moi c'est ça, c'est les prods, genre tu les mets, t'es sur un bateau, tu vois.
Alors rappelle peut-être à nos auditeurs qu'est-ce qu'on appelle la Maybach Music.
C'est Maybach Music, en fait c'est
label.
C'est le label de Rick Ross, et en fait c'est, à force dans le milieu, ça devient un nom d'esthétique musicale, comme le son Motown, c'est le son Motown, tu vois, ce genre de truc. Et la Maybach Music, c'est vraiment la yacht music, le truc. Genre, c'est vraiment c'est de la musique de croisière, tu vois. Enfin, je force, tu vois, mais il y a un peu ce côté-là. C'est un côté très luxuriant, c'est très influencé soul, mais en même temps, c'est très à la fois percutant, à la fois aérien. Je sais pas comment mieux décrire ça, c'est cher.
Tu te reconnais dans cette description? Est-ce que tu te sens, t'as l'impression de t'inscrire aussi dans le mouvement, entre guillemets, Maybach?
Bah oui, complètement. Après, c'est une facette hyper importante de ce que je fais. C'est pas tout ce que je fais, mais c'est une grosse facette de ce que je fais. Et comme je te disais, moi, Rick Ross, c'est mon artiste préféré. Même MMG, globalement, j'adore ce que fait Mick Mill, Wale, etc. Et du coup, forcément, ça m'a influencé à mort et ça a grave dirigé la couleur que j'ai aujourd'hui. Mmh.
Est-ce qu'il y a peut-être une autre influence aussi, tu vas me dire. Vous avez un point commun avec Michel, il te l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Michel, son objectif, c'est un jour de faire la BO d'un Pixar.
Ouais.
Toi, il me semble que déjà, tu as eu envie de faire vraiment de la musique, de la MAO, etc., après avoir vu Hans Zimmer, si je dis pas de conneries.
Alors, j'en ai fait avant, ouais. Mais en fait, ouais, je me rappelle avoir parlé de ça. Par rapport à Zimmer, il était dans... En fait, il est dans son studio.
Ouais.
Tu vois, il te parle d'un truc. Et déjà, il parlait de certaines choses et de son rapport à la musique, et je me reconnaissais à mort. Mmh. Et déjà, je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. J'étais encore en master commerce international à ce moment-là. Okay. Et du coup, et c'est là que j'ai pris la décision de dire, bon, ça, c'est fini. Ou en tout cas, que ça a été vraiment le truc de... disons la goutte qui fait que je passe à autre chose. Je me dis ok, je l'ai vu là dans son studio posé avec des machines derrière lui en train de faire du son, et quand il parlait de musique je me reconnaissais. Je me suis dit ok, non, c'est peut-être là que genre l'évidence m'est apparue, tu vois, genre ok, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais finir mon master machin, et je vais... mais en vrai c'est pas ça que je veux faire. J'étais déjà très concentré dans ma musique, mais le côté bon là, c'est bon, c'est ça, c'est sûr. Là, on y va à fond, il n'y a pas de retour en arrière.
C'est plutôt le déclic, donc en fait, on dit, le déclic de la professionnalisation du char, d'y aller vraiment à fond, quoi.
Ouais, de se dire, bon, écoute, là, c'est... Déjà que je le ressens, que j'ai envie de faire ça, mais là, je le vois, le mec, il est posé. Je sais pas, ça a du sens pour moi. Ce que je vois, ça a du sens, et je sens qu'il faut que je fasse ça.
Et donc, t'as regardé sa masterclass?
Ouais, grave.
C'est du
ouais,
masterclass, ouais, ouais, c'est ouais, trop stylé. Et tout, c'est trop chaud.
Trop stylé, ouais.
Et si, je sais pas si tu l'as vu, c'est une vidéo, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un truc. Je ne sais plus qui fait ça, mais ça s'appelle Composers Roundtable.
Okay.
Et c'est, t'en as une en particulier avec Hans Zimmer, Danny Elfman, et plein d'autres que j'oublie là maintenant.
Oui, mais aussi le mec de Nanny Shay, je crois.
Ouais, Trent Reznor.
Ouais.
Et plein de compositeurs de musique de film. Et moi, c'est une table ronde qui m'a marqué parce que surtout la différence d'expérience entre Hans Zimmer et Danny Elfman, qui ont à peu près le même nombre de gros films à leur actif, qui ont à peu près la même stature,
ouais.
Ou en tout cas le même poids symbolique dans la musique de film, de voir les différences d'expérience entre les deux et leur rapport à la musique, c'est fascinant.
Je te conseille,
je t'enverrai le lien.
Et donc, pour faire ce lien avec la musique de film, parce que mine de rien, la Maybach, le côté luxuriant, le côté ça... Ça peut être une bonne BO aussi. Enfin, je trouve que c'est pas fou, tu vois, de faire le lien.
Non, côté très cinématographique.
Mais ouais, c'est exactement ça. C'est ça que j'allais dire. C'est super cinématographique. C'est ça qui contribue aussi à l'atmosphère que ça donne, au côté yacht, au côté un peu James Bond, des fois.
Ça, ça joue sur l'imaginaire, en fait, au-delà de...
Et c'est hyper...
Tu fous quelques shines
tout de suite. C'est ça, ouais. C'est super visuel, tu vois. Et ouais, moi, c'est un truc que j'adorerais faire. J'ai pas encore les contacts qu'il faut, j'ai pas encore les plugs qu'il faut, etc. Mais si un jour la porte s'entrouvrait, ouais, je serais super chaud pour faire de la musique de film.
T'aimerais faire quoi comme film? Un James Bond?
Ouais, bah, un James Bond serait incroyable. Je pense qu'il faudrait il me faudrait un film avec un thème fort.
Mm.
Tu vois, un thème, un truc puissant qui puisse. Qui m'aiderait à être inspiré. Je pense pas que je sois peut-être spécialement doué, tu vois, pour faire une comédie ou. Ou un truc dans le genre, tu vois, il faudrait...
T'es pas chaud pour Bienvenue chez les Ch'tis 2
Non, mais je le ferais, tu vois, mais voilà. Si c'était ma première porte d'entrée, je le ferais, mais je pense pas que je serais... En fait, c'est même pas que je suis pas chaud, c'est que je pense pas que je serais bon, en fait. Mm. Je pense pas que ça serait un truc qui me correspondrait. Sans qu'on aille dans un truc dark non plus, hein. Mais, tu vois, un truc assez épique, etc., je pense que ça correspondrait plus à ce que je peux faire. Mm. Mais après, je veux pas que ce... Enfin, je voudrais pas que ce soit un truc épique, mais un peu gogol non plus, parce que ça a pas trop de sens, tu vois. Donc
après, on peut dire un peu que Rick Ross, c'est un peu du rap gogol aussi.
Non, par quel
non, tu trouves pas? Genre, moi, je trouve qu'il a un côté. En fait, c'est des fois tellement over the top.
Ouais, je suis d'accord.
Ok, dans ce sens-là.
Et, ouais, et c'est un peu genre, il y a une Lil Wayne aussi. D'ailleurs, il y a une bonne dose d'autodérision dans ce
truc-là,
etc.
Ok, dans ce sens-là.
Donc, je pense à quand je dis gogol, je pense à des trucs comme. Je sais pas, Driver. Tu vois ce genre de truc. C'est pas
Driver, le film, tu parles?
Baby Driver.
Ah, le film Baby Driver, ouais, ok.
Tu vois?
Oui, c'est-à-dire que ça va tellement loin, ça tourne presque au ridicule, ça reste cool, mais il y a un côté un peu on joue avec les
codes. Sauf que c'est assumé, en fait.
Oui, voilà.
À partir du moment où c'est assumé.
Oui, voilà. Moi, quand je dis gogol, c'est pas du tout péjoratif. Hein.
Ouais,
moi,
j'ai compris. Ouais. Non, c'est un truc qui est maîtrisé, qui est assumé.
Ouais.
Autre inspiration, quand même, et franchement, il y a un fil conducteur entre tout ça, c'est à la base pianiste de formation, t'es passionné de musique classique.
Ouais. J'avais lu dans une interview que tu disais que tes deux influences principales, c'était Rick Ross et Rachmaninoff.
Ouais, je pense que c'est ça, ouais, pour de vrai.
Est-ce que c'est Gogol, Rachmaninoff?
Ouais, c'est super Gogol. Voilà. C'est super Gogol.
C'est vrai.
Mais du coup, ouais, tu veux que je réponde sur l'influence qu'a la musique classique?
Ouais, est-ce que déjà tu vois un lien entre tout ça pour toi? Est-ce que ça fait sens? Ouais. Est-ce que...
Ouais, parce que même si musicalement ce que je fais, ça sonne pas forcément musique classique, c'est pas forcément la couleur que je vais retenir, c'est plus l'impact que ça a, tu vois, sur moi, l'impact émotionnel que ça a, la sensation que j'ai quand je l'écoute. Tu vois, la sensation de grandeur. Mmh. Tu vois, je vais prendre ce truc-là qui est, je sais pas si vous êtes un peu, si vous connaissez un peu Rachmaninoff, mais tu as des trucs vraiment qui sonnent immenses, etc. Et qui sont super, super forts émotionnellement.
Ah, Dead, c'est incroyable.
Voilà, par exemple, j'adore ce morceau. Voilà.
Tous les ans, je l'écoute. Il y a tous les trois mois, je l'écoute, je me mets dans le noir et je suis comme ça.
Non, mais typiquement, j'adore ce morceau, tu vois.
Il est incroyable.
Et ça, c'est super puissant. Ouais. Et j'essaie de retranscrire cette force, etc., cette puissance dans un milieu rap, tu vois, dans un truc qui peut convenir à un rappeur, parce que la musique classique, ça va peut-être trop dans tous les sens pour qu'un mec puisse poser dessus, mais réussir à prendre cette énergie et tu vois, réussir à faire ressentir cette émotion, mais dans un truc qui puisse convenir à un rappeur, en gros, je pense que c'est ça, c'est de cette manière là que la musique classique m'a influencé.
Est-ce que tu dirais que ce que tu fais à partir de toutes ces influences, c'est, y a pas de secret, si tu poses autant pour les Américains, etc., c'est parce qu'en fait c'est un son d'Américain, entre guillemets. Et bah, que si, quand tu places en France, bah, tu fais pas exactement ça de la même manière.
Alors, je réfléchis jamais en mode, bon, aujourd'hui je fais du français, aujourd'hui je fais de l'américain. Mais c'est vrai que, il y a qu'une fraction, pas une fraction parce que c'est trop peu, mais il y a qu'une partie de ma musique que je peux proposer en France. Ouais. Et je pense que ma musique, elle sonne très américaine parce que c'est ce qui m'a influencé. Ouais. Pas parce que je suis meilleur que les autres ou ouais, moi c'est tellement bien que c'est trop pour les Français, c'est américain du coup. Ouais. C'est juste c'est ça qui m'a influencé, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'attire et du coup ma musique sonne comme ça.
C'est une esthétique qui plaît très peu en France. Moi, ouais. On en parlait avec, je te disais, Pandrez, parce que nous on est fanatiques de cette Maybach musique et on adore ce genre d'esthétique, mais quand on essaye de trouver des rappeurs qui font ça, il y a eu Dean Burbigo qui est arrivé avec un peu ce genre d'esthétique et il y a presque plus un côté un peu de New York parce qu'il y a, il y a ce petit truc un peu. Jay-Z, à certains moments, tu vois, il y a des trucs un peu... on peut faire des ponts entre les deux. Mais c'est vrai que Seth Gecko est revenu quand il avait un petit peu fait une pause. Et puis quand il est revenu, c'est Pandrez qui m'a montré ça. Je me demande si c'est pas... Non, je sais plus comment ça s'appelait. Je vais dire
une connerie. Faudrait que j'écoute ça parce que
Il y a 2-3 ans, comme ça, où il est arrivé avec un morceau qui était très Maybach, qui était très chaud.
Ok.
C'est marrant que tu cites Seth Gecko. Je te laisserai... Parce que c'est il s'inscrit dans ces personnages, tu sais, qui sont c'est over the top. On en parlait. Est-ce qu'en fait, pour interpréter cette musique, il faut pas être un mec ultra extraverti
Il faut pas avoir peur du ridicule.
Et les Français, on n'est pas très forts pour ça, en fait.
Et en fait, comme tu dis, tu vois, je pense que tu fais ça en France, ça peut paraître ridicule. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est formidable. Ouais. Tu vois, effectivement, en France, ça peut être genre ça fonctionne pas, en fait. Tu vois, il y a des choses et je pense que c'est vice versa. Tu vois, peut-être des choses qu'on peut faire en France qui aux États-Unis fonctionneraient pas.
Certainement.
Mais t'as un truc peut-être supplémentaire aux États-Unis où il y a tout un côté personnage, tu vois, imaginaire autour du mec. Tu vois, Ross, c'est le boss, il est toujours en fourrure, tu vois. Et puis il pèse vraiment 100 millions. Alors qu'en France, si tu dis j'ai des yachts, j'ai des machins, il y a peu de chances que tu les aies. Et puis de toute façon, tu vas faire quoi de ton yacht? T'habites à Gennevilliers. Ross, il habite à Miami, donc ça fonctionne, tu vois. Miami, Scarface, donc tu vois, je pense qu'il y a tout ce truc-là qui fait que ça fonctionne. Et effectivement, l'imaginaire et l'image même, tout simplement, serait peut-être ridicule en France. D'un point de vue culturel, je suis pas sûr que ça soit reçu, tu vois, que les gens se le prennent de cette manière.
Après, on peut avoir des rappeurs qui vont poser sur ce genre de prod avec le même genre de grandiloquence, mais qui vont pas forcément devoir aborder ça d'une manière, je sais pas comment dire, qui vont devoir forcément parler de yacht ou de machin, etc., parce que c'est fort lié à cet imaginaire-là, mais tu peux parler de... Je trouve que Alpha One, typiquement, il fait partie des rappeurs qui parlent très bien de luxe, sans pour autant que ça soit...
C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire un morceau, entre guillemets, à thème, ou en tout cas des trucs sans forcément intégrer à ton mode de vie et dire c'est ce que je suis, tu vois.
Voilà. Je sais que Pandrez, il est très fan de Luigi aussi, alors j'ai jamais trop digué,
Luigi. Mais c'est pas dans cet esprit-là du tout, par contre.
J'ai entendu 2-3 tracks que Pandrez m'a fait écouter.
Il y a 2-3 trucs, il y en a un qui était produit, d'ailleurs, je lui avais envoyé un message parce que j'avais vraiment kiffé, par Ryan Coffey. Ouais, qui produit beaucoup pour Luigi. Ouais. Et le morceau tendait grave vers ça, tu vois, il était vraiment, vraiment stylé.
Ok. C'est vrai que moi j'ai une image, mais parce que c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est plutôt, tu sais, c'est les douceurs, quoi, tu vois, Luigi, tu vois, c'est la mélancolie, c'est le.
Mais après, il parle pas nécessairement de luxe et tout dans le morceau, tu vois.
Pour moi, genre, Gold Roses, le feat Rick Ross Drake.
Oui.
Je le trouve incroyable, je l'ai écouté 50 fois quand il est sorti. Il y a ce truc, c'est intime, ça peut être luxueux et intime,
Luigi pourrait être sur un morceau comme ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a ce côté luxueux, tu vois. Je suis d'accord.
Mais il n'y a pas effectivement cette dimension épique qui
mais
potentiellement.
Ça peut passer ne serait-ce que par. Déjà, si tu vas dans une certaine couleur d'accord. T'es peut-être t'es déjà un peu dans ce monde-là, tu vois.
Bah, tu mets une neuvième.
Voilà, exactement. T'es déjà dans le thème.
Rentrons dans le vif du sujet alors. C'est comment tu bosses? C'est in the box, t'as du hardware, t'as. Je suis sûr que Michel a plein de questions. C'est ton processus créatif globalement à partir de quel setup entre guillemets?
Alors moi, déjà j'ai entendu que du coup avant, comme beaucoup de gens, tu travaillais essentiellement sur base de samples et que là maintenant t'as switch à full compo.
Non, je suis un peu entre les deux. Ouais. Tu vois, genre, je cherche des samples et quand il y a des samples qui me plaisent, je me prive pas de le faire. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi créer mes propres samples. J'ai un ami qui m'en fait, avec qui j'en fais aussi, qui s'appelle Maxime Breton. Mm. Tu vois, qui m'a fait, par exemple, on a fait le sample ensemble de Boogie Feat Eminem.
Okay.
Tu vois, c'est un morceau que j'ai fait avec lui. Et du coup, ouais, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je vais avoir mes phases où je cherche des samples. Parfois même, je les cherche, je les bosse pas encore, je les mets de côté. Et il y a des fois où je vais être en mode, ok, là, je vais créer un sample, je vais prendre des voix, je vais faire mon propre truc, ou je vais aller chez Maxime, on va le faire à deux, ou lui, il m'envoie des trucs, parce qu'il est très bon tout seul sans moi, et on a un peu les mêmes influences, et du coup, lui, il m'a créé un sample, tu vois. Et j'aime bien aussi parfois quand c'est que lui qui me l'a fait, parce que, en fin de compte, là, je me le prends vraiment comme un sample. Parce que quand je l'ai fait le sample avec lui, tu vois, je me rappelle de ce qu'on a fait. Alors que quand il m'envoie un truc, je le traite vraiment comme un sample. Donc, je suis un peu entre les deux. J'essaie, effectivement, parce que ça aide à sortir des morceaux plus facilement. C'est plus intéressant financièrement. Et y a
tu
aussi,
veux dire, quand il n'y a pas de sample, tu n'es pas obligé de partager les droits, en gros.
C'est ça, parce que quand il y a un sample, forcément, tu dois ce qu'on appelle le clearer, c'est-à-dire obtenir l'autorisation de l'utiliser. Mmh. Et ça implique qu'ils prennent une part. Mmh. Maintenant, je ne me ferme pas non plus cette porte parce que. C'est des morceaux que j'adore faire et je préfère faire un morceau même où si je gagne moins sur ce morceau que de ne pas le faire du tout, tu vois.
Même si j'ai quand même vu apparemment que dans ton processus créatif, même quand il y a une base de samples, ça t'arrive régulièrement de te dire finalement au bout d'un moment, après avoir brodé autour du sample,
ça m'arrive, ça aussi,
je le vire et on va réinterpréter un truc.
Ouais, ça m'arrive, etc. Ça m'arrive plusieurs fois de faire ça. Ouais, en fait, je bosse, je rajoute pas mal d'éléments, je retire le sample et je vois si ça sonne encore réel, tu vois. Est-ce qu'on a encore de la texture? Est-ce que ça se suffit à. Est-ce que la musique que j'ai faite se suffit à elle-même? Ou est-ce que.
Le sample apportait trop, faisait trop le taf.
C'est ça. Et du coup, quand je vois que, ok, c'est cool, ça marche encore, du coup, au-delà du fait de. Enfin. Ça m'intéresse
qu'il y a
plus
cher,
de sample. Au-delà du fait de, que ça me coûte moins cher, etc. Et que surtout, je sois sûr du placement, parce que parfois, t'as pas le placement parce que le sample n'a pas été clearé. Ça me permet aussi d'être plus libre dans l'endroit où je vais emmener le truc. Parce que quand t'as un sample, t'es à peu près, pas toujours, mais tu sais, t'es un peu obligé de suivre les accords ou de suivre la ligne de basse ou tu peux pas faire exactement ce que tu veux. Alors que si je le retire et que, admettons, il y avait des voix,
folies, quoi.
Voilà, je me dis, ok, bon, là, j'ai fait cette suite d'accords-là. Si je veux aller sur autre chose, je peux aller sur autre chose maintenant. J'ai pas la contrainte du sample. Donc, ouais, il y a ce cas de figure-là aussi où je commence un sample, machin, et puis finalement, je me dis, attends, j'en ai pas forcément besoin. Et en plus, ça va me permettre de faire plus de choses artistiquement.
T'avais déjà 10 ans de piano dans les pattes quand t'as commencé à prod, c'est ça?
Ouais, 8 ans. Parce que j'ai commencé à 12 ans et les prods, j'ai commencé à 20 ans.
Ok. Donc là, t'es à vraiment 20 ans de piano?
Ouais, c'est ça, à peu près, ouais.
Et donc, du coup, j'imagine que quand tu pars sur un sample, tu pars du piano directement ou quand toi, tu veux créer un sample?
Ah, quand moi, je veux créer un sample, ça dépend. Franchement, ça dépend. En fin de compte, même, c'est assez rare que je parte du piano.
Ah ouais, c'est étonnant. Pour quelqu'un, enfin c'est ton instrument de prédilection.
En plus, c'est un style qui s'y prête particulièrement bien.
Ouais, non, clairement. Après, si je veux faire un sample de piano, je vais partir du piano. Mais en amont, je vais souvent, quand on bosse avec Maxime, on va souvent réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de raconter là? Tu vois, j'essaie de me dire, ok, c'est quoi l'histoire? Quel genre d'émotion on veut donner? Ok, maintenant qu'on a décidé ça, par quel instrument je peux donner cette émotion? Quel instrument va être la star de ce truc? C'est quel instrument va chanter, tu vois, la mélodie par exemple, quoi? Et du coup, c'est pas toujours le piano, tu vois. Donc si jamais je sais pas, c'est une flûte ou un violon, je pars de ça. Et ensuite j'agrémente les textures, les machins, on essaie d'écouter des morceaux existants dans ce style pour voir comment eux, les mecs, pas de rap, hein, mais de sample, comment eux, ils ont composé leur truc. Tu vois, ça peut être ne serait-ce qu'une certaine percussion qui font la différence dans le fait que ça sonne réel ou pas, tu vois. Et du coup, je pars pas nécessairement du piano.
Ok.
Ouais.
C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai été un peu choqué, entre guillemets, par le fait de... J'ai eu un peu de compassion en me disant, t'es pianiste, classique, etc., et t'as l'air de tout faire au clavier MIDI à caille un peu basique, c'est pas trop frustrant de...
Non, mais j'adore ce clavier
c'est
parce que...
toucher ça... et tout, ça va
Non, toucher lourd. Okay. Franchement, clavier à caille, 88 notes, toucher lourd.
Okay.
Franchement, je suis super à l'aise dessus. Bon, c'est pas aussi bien qu'un piano, mais je suis pas sûr que ça existe, un clavier maître qui existe aussi bien qu'un piano, tu vois. Et puis, si tu veux tout faire en synthé, hardware, etc., bon, ça coûte déjà énormément d'argent et ça prend de la place. Et puis, c'est pas forcément le plus simple, tu vois, en termes de workflow, etc. C'est plus compliqué que d'aller sur Kontakt, trouver tes banques, etc.
Bien sûr. Et tu t'es déjà retrouvé à travailler avec des violonistes, des contre, enfin, tu vois, genre des sections de cordes pour certains trucs.
Violon, ça m'est arrivé quelques fois. Le cas de figure que j'ai le plus régulièrement, c'est des chanteuses. Je suis très pote, par exemple, avec Isult. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
Ouais, très bien.
Isult, peut-être fort. Nova, vous connaissez aussi. November, elle s'appelle. C'est une chanteuse aussi. Je les remercie d'ailleurs quand j'ai besoin d'elle. Elles me font des voix. J'ai fait un morceau avec Rick Ross avec des voix de Nova, par exemple.
Incroyable.
Du coup, quand j'ai besoin de voix, elles le font. Donc, elles viennent à la maison, je compose des trucs, elles posent leur voix directe. Maxime, dont je vous parlais, lui, il est guitariste. Il joue de la basse et il joue du saxophone, de la trompette aussi. Vois, il fait pas mal de trucs à ce niveau-là. Mais j'ai pas encore de violoniste sûr, tu vois. Là, j'ai suivi une petite meuf qui fait de la harpe. Donc ça m'intéresse aussi, je pense que je vais lui envoyer un message pour qu'elle m'envoie des trucs. Mais ça m'arrive, tu vois, quand j'ai besoin d'instruments, de contacter des gens sur Insta ou Twitter. Au fait, j'ai vu que tu jouais de ça, ça m'intéresse.
Tous ces gens, après, quand il faut les enregistrer, t'as... parce que je crois pas que t'es ton propre studio, enfin t'as un home studio, mais je crois pas que t'es un studio vraiment d'enregistrement. Tu loues, comment ça se fait? Vous vous débrouillez à la maison quand même?
Ouais, enfin à la maison, quand je te parlais de Nova et Isult, elles viennent à la maison directement. Ouais. Bon, c'est une pièce qui est dédiée à ça, tu vois, ça, mais c'est pas, après c'est pas un studio d'enregistrement, mais c'est largement assez propre pour faire des samples. Et surtout, si tu veux, quand on vient d'enregistrer des voix, c'est pas une chanson qu'elle vient d'enregistrer. Moi, c'est des voix ensuite que je vais retravailler, que je vais modifier, etc. Donc au final, peut-être même que d'être dans l'atmosphère où, dans laquelle elles sont, ça m'aide même pour avoir un petit grain, une petite texture, tu vois.
Nous, on a ce truc de studio pouilleux dans le deuxième avec Pampan. Et tout ce qu'on fait, on ramène des gros guests dans ce truc. Et en vrai, on est trop content. Déjà, ça met tout le monde dans un mood où il n'y a pas trop de pression. T'es pas là dans un truc où le matos, tu le touches, tu le casses.
Tu te dis que la minute doit être rentabilisée, limite.
Voilà, en détente. Et déjà, ça participe à l'inspiration. Et puis, comme tu dis, genre, il y a aussi, je sais pas, potentiellement une esthétique un peu moins clean qui fait que c'est une autre. Truc, c'est de la magie.
Mais en tout cas, je pense pas avoir besoin de louer un bête de studio pour enregistrer ce genre de truc. À moins que je sois en mode vraiment là, on est en train de composer un album, tu vois. Mais en fait, quand je suis en train de créer un sample, moi je vais le retravailler après, donc j'ai pas besoin.
Pour toi, il y aurait pas un gain dans ta production, franchement, d'avoir.
Franchement, je pense pas. Je pense que le rapport temps investi, etc., me ferait pas gagner grand chose. Peut-être que je gagnerais 1% en mieux, et je suis même pas sûr, tu vois. Et comme ça fonctionne très bien comme ça, je me dis ok, bon, on reste comme ça.
Et moi, je pense tu veux faire de la musique de film. Est-ce que une porte d'entrée potentielle, ou en tout cas, tu sais, rajouter une corde à ton arc potentiellement par un biais qui me paraît abordable, ce serait pas les trucs du hip-hop symphonique où genre tu ferais potentiellement des arrangements pour des trucs et parce que j'ai vu des trucs, je pense que c'est un truc qui pourrait 100% être dans tes cordes et
grave.
Tu sais, là tu te retrouves à diriger un orchestre
et
en même temps t'apprends tu vois genre...
Chaque année c'est Radio France qui fait ça, qui fait un concert hip-hop symphonique assez impressionnant.
C'est très cool, c'est stylé, c'est à la Philharmonie, ça
il me semble.
Non, c'est grave, j'ai déjà vu ça, c'est super stylé.
C'est le genre de truc dans lequel je te verrais bien, du coup je pense que dans ta position, c'est ce que j'essaierais de les démarcher et de voir ce qu'il y a moyen de faire avec eux.
Ouais, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais ouais, franchement, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Faudrait peut-être qu'il fasse un de mes morceaux, tu vois. Faudrait peut-être que je sois plus actif en France. Qu'il fasse un morceau là-bas.
Ou tu ramènes Rick Ross là-bas.
Ça, pour le coup, tu vois, ça, c'est vraiment un de mes rêves, c'est que Ross fasse une tournée avec un orchestre symphonique. Tu vois,
ça serait incroyable.
Incroyable.
Ouais.
C'est avec Jay-Z ou peut-être Nas, c'est un des seuls qui, je pense, a le catalogue pour que ça ait du sens.
Ouais, et puis même la présence.
Ouais, la prestance et tout, bien sûr. Ouais, ça serait fou, ça.
Ouais, ça serait.
Et tu bosses. Tout home studio à la maison, pas de hardware, tout clavier maître, et puis après c'est du VST à fond.
Franchement, à 90%. Après, t'allais me dire quelque chose, moi ?
Mac, PC.
Mac, parce que je suis sur Logic.
Ok.
Ok. Ah, t'es sur Logic. Okay.
Ouais, je suis sur Logic Pro. Bah, en fait, mon ami Pils qui m'a fait commencer était sur Logic Pro.
Ok.
Donc, ok, c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah, je suis parti là-dessus, tu vois, tout simplement. Et ouais, 90%, je travaille en VST. Après, j'ai un synthé à la maison. Mais tu sais, c'est les synthés, je sais pas si vous voyez ce que c'est un CS50. C'est un Yamaha, mais ça, okay. Ça a une couleur, tu vois, donc c'est pas un truc que je peux utiliser dans tout. Et après, en dehors de ça, quand j'ai besoin de guitare ou d'instruments, etc., bah, j'appelle les gens, et là, du coup, ils m'envoient ça, tu vois. Donc là, t'es plus dans du VST, t'es dans du live, de l'audio.
Petit top rapide des plugs que tu utilises le plus, que ce soit effet,
top.
Etc.
Okay.
Enfin, tu vois, les trucs vraiment qui sont essentiels à ta musique.
Ouais.
Et j'irais même plus loin. On va le prendre même d'une autre manière, si tu veux bien. Pardon, excuse-moi. Okay. Je t'ai souvent entendu dire que tu cherchais à faire une musique intemporelle, entre guillemets.
Ouais.
Sans te la raconter, genre,
ouais.
La musique va durer très longtemps. Mais
c'est
l'objectif,
en tout cas.
Voilà, c'est l'objectif. Et puis, pas forcément céder tout de suite aux effets de mode, etc. Mais dire, ouais. Moi, je veux un truc qui peut s'inscrire dans le temps, quand même, le plus possible. Ouais. Comment on obtient un son intemporel? Quelle est ta manière de travailler? Est-ce que ça passe justement par des plugs, etc.? Quels plugs éventuellement te permettent un peu d'atteindre cet objectif? Comment tu vois les choses, tu vois?
Du coup, en fait, le fait de faire de la musique comme tu dis intemporel ou comme moi j'avais dit intemporel, c'est pas un truc genre moi je veux faire ça. C'est ce qui me touche en fait, c'est ce qui me plaît et c'est plus le sens inversé. J'ai remarqué que mes morceaux qui étaient vraiment bien, bah ils avaient tendance à être intemporels, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je peux m'auto-critiquer ou m'auto-juger, mais c'est un peu la sensation que j'ai eue. Mais comment j'y arrive en fait, c'est le... Déjà j'y arrive pas tout le temps, c'est mon objectif tous les jours, mais j'y arrive clairement pas tout le temps. Mais avant de me lancer dans une instru, tu vois je te parlais d'histoire tout à l'heure, j'essaie d'avoir un truc et de réussir à créer quelque chose, que ce soit une suite d'accords, un mélange de voix, de piano ou de n'importe quel instrument qui raconte quelque chose. Avant, si ça raconte rien, je me lance pas dedans. Je peux faire une suite d'accords qui est correcte, qui est de la musique, qui fonctionne, qui ne dissonne pas, mais j'aurais juste fait un morceau pour faire un morceau. Ok, c'est pas fort. Il faut que quand l'ébauche que je suis en train de construire, quand je l'écoute, je sois tout de suite dans un truc précis qui me fasse ressentir quelque chose, tu vois. J'ai pas forcément de mots particuliers, mais il y a une couleur, et je me dis, ok, putain, il y a une évidence, en fait, tu vois. Il y a une évidence dans la musique que je suis en train d'entendre. Et une fois que j'ai ça, c'est ça qui pour moi va donner le côté intemporel. Et là, je vais à fond dedans. Et là, ce petit truc que j'ai, qui pour moi fonctionne vraiment bien, là, j'essaie de le rendre grand et de le rendre fort et de le rendre, comme je te disais, intemporel.
Est-ce que tu penses que ça passe plus en fait par la composition en réalité, ce côté intemporel, plus que par la technique, l'esthétique sonore, etc.?
Alors, moi déjà, je considère que je ne suis pas du tout un mec technique.
Okay.
Tu vois, si tu regardes mes mix ou mes sessions, c'est dommage, bon, forcément j'ai pas mon ordi ici, mais il y a rien de fou, tu vois, dans mon mix. Il y a des EQ, de la compression, de la reverb, du delay, voilà, tu vois, quelques effets ici et là, mais il y a pas du tout de routing de fou qui font que le sidechain va... Je suis pas du tout fort là-dedans. Mais par contre, j'essaie de faire en sorte que dans ma sélection d'instruments, déjà ce soit réel, quand tu utilises un synthé, tu utilises un synthé. Mais quand tu utilises un violon virtuel, il faut pas qu'il sonne plastique. T'en as 20 000, donc faut qu'il sonne réel. Tu veux donner la sensation qu'il y a un orchestre, faut que ton violon il sonne réel, faut que ton piano il sonne réel, faut que ta basse sonne réel.
T'es sur du Spitfire?
Spitfire, j'aime bien, ouais, pour les violons, pour les basses, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le J-Bass.
Ouais, très chaud.
Une banque contact
Backer aussi, j'aime beaucoup.
Ouais, je le laisse, celle-là aussi. Et du coup, voilà, ça passe par la sélection d'instruments d'abord, et ensuite, enfin, pas d'abord, ça c'est en deuxième. Mais il faut que ce que j'ai à raconter soit intéressant, tu vois, musicalement. Et ensuite, ça sera jamais intéressant si j'ai pas les bons instruments.
Mais c'est vrai que déjà, ça pour moi, s'il y a un élément de réponse là-dedans, c'est que toi, tu utilises essentiellement en tout cas, si c'est pas des vrais instruments, c'est des simulations d'instruments organiques.
Ouais, ouais.
Et ce truc-là, pour moi, ça aide vachement à inscrire le truc dans un truc intemporel parce que...
C'est ça.
Même si c'est virtuel, tu peux te dire, bah, c'est joué par des vrais. En fait, il n'y a pas ce côté, genre, les synthés des années 80, ils sont connectés années 80.
C'est ça. Ouais.
Les synthés des années 90, ils sont connectés années 90, et ainsi de suite, la dubstep, le machin, etc. Et en fait, c'est le problème de la synthèse, c'est que ça colore fort une période, parce que c'est toujours le nouveau truc.
C'est de la technologie, en fin de compte.
Ouais, c'est ça. On a un nouvel élément de technologie.
Comme la 3D.
On explore. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, t'as les pionniers qui finiront toujours datés. Et t'as la racine, on va dire. Et la racine, pour moi, c'est les instruments organiques, machin, etc. Et quels sont tes plugins secrets?
Alors, franchement, j'ai aucun plugin secret, vraiment. Comme je t'ai dit, c'est dommage, j'ai pas mon ordi. Sinon, carrément, je vous montrerai ce que j'utilise. J'utilise en piano ça dépend un peu de la manière dont je veux que ça sonne, mais bon, je peux utiliser les pianos Omnisphere de Keyscape. Ouais. Je peux, il y a un piano sur Contact que j'aime bien qui s'appelle Piano in Blue.
Oh.
Moi, en fait, Piano in Blue, pour vraiment entrer dans le détail, j'aime bien l'utiliser quand je joue des accords très aigus. Je trouve que dans l'aigu, il est grave réaliste. Ouais. Donc, je m'en sers principalement pour ça. Ouais. Après, j'utilise Contact. Pour faire mes drums, j'utilise Machine, mais j'utilise les drum kits tu vois, que tout le monde a, je pense.
Ouais,
après,
c'est-à-dire
quoi, les Ozzy, les Southside, les trucs comme ça, tu vois, les Murda, tous les kits qui sortent un peu. Après, tu les mixes différemment, donc tu fais ton truc. Mais j'utilise beaucoup les CLA Unplugged, CLA Vocals. Qu'est-ce que j'utilise constamment aussi?
Pour tout ce qui est reverb, compression, etc.
Compression, j'utilise la channel Neve de Universal Audio. C'est une tranche
de console,
c'est ça. Où tu as un EQ, où tu as de la compression. Donc j'utilise souvent ça quand je veux compresser un truc. En reverb, j'utilise quoi?
Il faut pas poser des questions, tu vas nous dire Valhalla, puis voilà.
même pas.
J'utilise Valhalla, mais j'utilise aussi. Putain, je sais plus comment ça s'appelle dans l'Universal Audio. C'est un. Okay. Je crois que c'est RMX16 ou un truc comme ça.
Cela me dirait.
Il y a un nom comme ça, avec des lettres et des chiffres. Je sais plus c'est laquelle exactement. Ouais. Mais sinon, ouais. Alors, le truc crucial que j'utilise absolument tout le temps, c'est le Sound Shifter, donc qui modifie le pitch. Le Sound Shifter de Waves.
Ok.
Qui s'appelle Sound Shifter, pour le coup, d'ailleurs. Qui est archi propre. Tu vois, tu peux aller à plus 6, plus 7 et ça reste propre.
Ok.
Donc ça, si je dois retenir un plug de mix, c'est celui-là.
Ok.
Alors vraiment, je l'échangerais contre rien au monde.
Je suis chaud. Parce qu'il est vieux en plus, non? Genre c'est
Ouais, c'est pas récent, hein. Mais je trouve qu'il est archi propre.
Ok.
Pour moi, en tout cas, j'adore.
Parce que souvent, j'ai ce truc où, tu sais, quand tu pitches vers le bas, c'est toujours très beau. Et quand tu pitches vers les aigus, tu commences à
avoir... Ouais, ça peut être dégueulasse. Après, ça dépend aussi de la qualité de l'audio. Mais franchement, le Sound Shifter, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Pour pitcher.
Okay.
T'as parlé tout à l'heure un peu des drums avec Machine, etc. Je t'ai entendu dire que, clairement, quand vous produisez ensemble avec Street Runner, donc pour l'essentiel de tes productions américaines en tout cas, souvent c'est quand même lui qui s'occupe des drums.
Ouais.
Et toi, tu t'occupes un peu du reste, entre guillemets. Enfin, globalement, comment vous collaborez? Qu'est-ce que chacun fait? Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours? Est-ce que vous êtes à distance quand même? Enfin, tu vois que...
Ouais, mais on est tout le temps sur FaceTime, etc. Ouais. Donc, en fait, là, tu vois, par exemple, mon téléphone sonnait, je sais que c'est lui qui m'appelle là pour me parler d'un truc. Je vais vérifier, tu vois, pour te dire ça.
Allons-y.
C'est lui, des fois.
Il est à l'heure, c'est bon.
Ouais, parce que là, tu sais, c'est presque une relation de couple. Je sais à quelle heure il se lève, il va m'appeler vers 6h-là. Je sais qu'il m'appelle vers 6h, tu vois. Et du coup, si vraiment tu veux résumer, on va dire qu'il serait plus drums mix et moi, je serais plus musique. Okay. Tu vois, mais en vrai, on a tellement de cas de figure. Là, peut-être qu'il va m'appeler pour me dire, tiens, j'ai un sample, je te l'envoie. Modifie-le, renvoie-moi les trucs, rajoute tes keys, renvoie-le-moi. Moi, je vais faire les drums, tu me les renverras après. Après, j'essaie toujours, moi, de faire quand même des drums pour donner une direction. Parce que ça, c'est hyper important pour la couleur d'un morceau, pour l'esthétique d'un morceau, donc je les fais toujours. Et lui, après, il fait sa sauce, tu vois, en fonction de ce qui lui parle. Mais il peut, lui, m'envoyer un sample, lui, m'envoyer une idée. Des fois, il m'envoie des trucs qui datent de 2006. Il me dit, en fait, je me rappelle, j'avais fait ça. Viens, on reprend ce truc-là, on repart dessus. Ou alors, moi, je compose tout un morceau de A à Z, je lui envoie. Et il me dit, cool, vas-y, envoie-moi la session. Et puis, lui, il modifie ce qu'il veut modifier. Ou des fois, s'il n'y a pas tout ce qu'il lui faut, il me dit, au fait, rajoute-moi ça, rajoute-moi ci, change ça. Je veux pas que le piano, il soit comme ça. Donc, c'est vraiment de l'échange constant, en fait. Mais c'est pas difficile, tu vois, d'être à distance, parce qu'on est toujours au téléphone. Tu vois, donc pour
ça te manque pas le côté quand même peut-être pouvoir rouiller une session toute la nuit avec le mec et là c'est un autre processus créatif.
Si, c'est cool. Après moi, tu vois, j'aime bien aussi être seul dans le sens où parfois, tu vois, le truc dont je te parlais tout à l'heure de trouver ce petit truc où je me dis ok, ça vaut le coup et ça raconte quelque chose. Parfois ça me prend 2-3 heures, tu vois. Et ça peut être chiant peut-être pour quelqu'un parce que moi je suis dans mon studio, je vais me lever, je vais marcher, je vais réfléchir, je vais me poser, tu vois, et jusqu'à ce qu'il y ait un truc où je me dise ok, ça c'est sur ça que je travaille aujourd'hui.
Donc il y a un truc qui est une démarche quasi intellectuelle. Avant, c'était même pas tu t'attends déjà du truc, c'est vraiment tu vas te lever, tu vas réfléchir, tu vas dire quel est mon concept.
Je veux pas non plus, tu vois, faire le mec pousser le truc trop loin, mais il y a de la des fois j'y vais, je joue et je me dis tiens, je vais jouer au hasard, peut-être y a un truc à me parler, et des fois il y a une réflexion en amont de me dire ouais, OK. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que, par exemple, là, on travaille sur tel album. Admettons, là, on travaille sur le prochain album de Khaled, par exemple. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur cet album? Quel morceau je voudrais avoir sur cet album? Et en fonction de ça, j'essaie de réfléchir, de me dire, OK, putain, c'est, ou alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et ah ouais, putain, avant, tu faisais des vibes comme ça. Et si tu mélangeais avec ce nouveau truc que tu fais, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois? Donc, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas, artiste torturé qui réfléchit, tu vois, genre, waouh, je dois trouver.
Comment t'arrives avec une proposition, quoi?
C'est ça, exactement. Genre, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui, tu vois? qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un sample soul de plus?
Ouais.
Tu vois, à moins qu'il soit incroyable et qu'il soit vraiment fort. C'est plus, voilà. Genre, gérer ma journée, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais raconter?
Tu as écouté Silk Sonic?
J'ai pas écouté l'album, je suis désolé.
Non,
j'ai écouté les singles que je trouve charmés.
C'est incroyable.
Donc, juste pour rappeler Bruno Mars,
ça ne ressemble pas. C'est incroyable. Et moi, je vois une filiation entre ce que tu peux proposer et ce qu'il propose.
J'aurais adoré.
Et justement, est-ce que...
Il faut que je l'écoute d'ailleurs.
Franchement, trop chaud. Est-ce que justement... Donc toi, t'es clairement dans le rap.
Mm-hmm.
Mais justement, est-ce que ça t'intéresse pas d'essayer de t'orienter vers des projets plus pop avec... cette même grandiloquence, ces mêmes codes, machin, etc. Mais de juste sortir du rap, travailler avec des artistes potentiellement plus pop, etc. C'est une démarche que tu as déjà faite ou pas du tout?
On a fait un morceau via DJ Khaled encore pour un film Disney avec Demi Lovato, tu vois,
okay.
Qui était beaucoup plus pop du coup. Mais ouais, si tu me parles de Bruno Mars et Anderson .Paak, j'adorerais.
Mm.
C'est juste que parfois... Tu sais, tu veux aussi te concentrer sur les plugs que t'as.
Ouais.
Après, si demain, on a ce plug-là, ou The Weeknd, OK, là, vas-y, on part là-dessus. Parce que si je fais des morceaux pour The Weeknd, c'est très typé.
Ouais.
Silk Sonic, pareil, c'est très typé. Donc, il faut
c'est
que ça ait un
intérêt. Mais c'est quand même vachement plus proche de ce que tu fais que The
Weeknd. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que ça ait un intérêt pour moi de les faire.
Ouais.
Parce que si je les fais pour que ça dorme, mais je peux pas proposer ça à beaucoup de monde à part eux, en fait, tu vois.
Mmh.
Donc, si demain, Street me dit, écoute, dans 3 semaines, je suis en studio avec eux, là on va se mettre en mode et je serai trop heureux, tu vois. Mais s'il me dit dans 3 semaines, je suis avec Ross, je suis avec Mick, je suis avec un tel, je vais me concentrer, je vais faire de la musique dans ce style-là, tu vois.
Est-ce que t'as pas l'impression, toi vraiment t'as l'impression que Silk Sonic, il y a que eux qui vont pouvoir proposer ça, et est-ce que tu le vois pas comme la possibilité qu'il y ait d'autres artistes qui mettent au moins ce genre d'influence potentiellement dans autre chose, etc.
Non, c'est possible, mais pareil, je pense que les artistes qui potentiellement pourraient être influencés par ça, j'y ai pas accès. Tu vois, parce que ça, c'est des artistes. Alors peut-être que Ross pourrait rapper sur un de ses morceaux, peut-être, mais sinon je pense que la scène rap pourrait apprécier mais rapperait pas sur des morceaux comme
ça. Ouais, mais c'est ça que je veux dire, c'est que genre t'as pas volonté de te plug avec des gens plus pop.
Si, après c'est la
les connexions sont compliquées.
Ouais,
en fait.
C'est ça, est-ce que t'arrives à faire les connexions ou pas, c'est Bruno Mars, c'est enfin, même Anderson .Paak. Anderson .Paak,
c'est
plus
encore un autre univers.
Ouais, c'est super. Et puis, c'est des méga stars.
Parce que c'est. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme il y a des espèces de bulles de...
Ouais.
Aux États-Unis, c'est-à-dire que t'as un peu un cercle qui rassemble telle personne et qu'il n'y a pas forcément de porosité
C'est ça, tu peux, mais après, c'est. C'est compliqué, tu vois, ça reste compliqué.
C'est pas parce que t'as bossé avec des restas que tu peux choper l'autre star.
C'est ça, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est Bruno Mars, tu vois. Bon, Anderson .Paak, c'est quand même plus proche du rap. Pas nécessairement dans ce qu'il fait, mais dans historiquement ce qu'il a fait, etc. Tu vois, très proche de Mac Miller, et puis il était avec Dr. Dre, donc tu vois, ça serait atteignable peut-être plus facilement. Mais et en plus Bruno Mars, enfin, c'est une encore plus grosse star, pas dire qu'il est meilleur, mais juste le statut qu'il a.
Ouais,
voilà.
Bien sûr.
Et du coup, atteindre des mecs comme Bruno Mars, c'est très très difficile, tu vois.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres artistes qui sont dans un espèce pareil de soul revival machin, etc., que tu
franchement peut-être, mais je suis pas le plus connaisseur, je pense, de ça. Je vais connaître les grands, grands noms, mais pas les trucs un peu moins connus. Et faudrait que, comme je t'ai dit, il faudrait déjà que j'ai la connexion, quoi. Que j'ai le parce que le temps est compté, forcément, tu vois, mes journées, il faut que je fasse... Après, je me dis pas, j'adorerais faire ça. Dès quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Mais j'adore aussi ce que je fais pour les rappeurs avec qui je bosse déjà. Donc, je me dis, bon, on va joindre l'utile. Enfin, l'agréable, du coup, les deux sont agréables, mais il faut que ça soit utile. Donc, voilà.
Est-ce que Michel, t'as encore des questions? Moi, j'aurais une dernière question, mais pour terminer l'émission.
Oui, non, moi je suis bon là.
Ouais, parce que je pense qu'on a fait un bon tour.
Oui. On a parlé de plugins carrément. Genre, c'est la première fois qu'on parle de plugins.
Ok,
c'est vrai.
Ouais, c'est la première fois qu'on nomme des plugins.
Tu vois, je t'ai rien dit de fou. Hein.
Ouais,
j'ai vraiment dit des plugins.
Dernière question, c'est en interview, tu cites souvent ton professeur de piano quand t'étais adolescent.
Ouais.
Tu lui dis que tu lui dois beaucoup.
Ouais.
C'est assez beau, en fait, comment tu rends hommage à ce monsieur.
Ouais, parce qu'en plus, des fois, quand je le dis, lui, il dit « Ah non, c'est toi, machin », donc j'insiste, tu vois.
Est-ce que, vu comme ça semble te toucher, cette relation, en tout cas, d'avoir été importante pour toi, tu te dis qu'un jour, t'as envie de transmettre, toi aussi? C'est un truc qu'il faut...
Ouais, franchement, pour le coup, j'en parlais hier avec des amis, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, et j'ai déjà fait des masterclass et tout, et j'aime beaucoup le faire, tu vois, vraiment, c'est un truc qui me plaît, parce que déjà, les élèves viennent et... ils sont hyper intéressés, tu vois, ils viennent pas à l'école, en fait. Ils viennent parce que, voilà, ils sont vraiment intéressés par le truc. Et ils sont hyper réceptifs, etc. Et moi, ça me fait kiffer, hein, de partager ça, de leur donner mes trucs. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, sans vouloir faire le mec, mais de pas avoir eu, moi, de modèle de mecs qui ont fait ce que j'ai fait. eux aussi de me voir en vrai, de voir que... tu vois, quand je te rencontre, je discute avec toi comme, t'es, comme si t'étais mon pote, tu vois. Mmh. Et je discute avec eux et je vois que ça les inspire, ça les motive, tu vois. Et moi, cette énergie-là, je, j'adore. Donc, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place. Je ne sais pas exactement comment, mais ouais, de donner des cours, tu vois, ça peut paraître, entre guillemets, trivial. Tu sais, quand genre, ah, bah, le mec, il bosse avec Ross, mais il va donner des cours. Mais alors que moi, ça me régalerait pour de vrai. Mais je n'ai pas encore, mis à part les masterclass ponctuelles, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un truc vraiment régulier. Mais ouais, franchement, c'est un truc qui me chaufferait.
Tu sais, tu disais, ça peut paraître trivial. Ou... parce que malheureusement, il y a souvent, en tant qu'artiste émergent, une économie tellement compliquée que c'est souvent, en fait, un truc à côté qui te permet un peu de bouffer, entre guillemets, de donner des
cours.
Ah oui,
oui, dans ce sens-là, ouais.
Mais en réalité, c'est pour ça que parfois, on peut avoir une vision un peu péjorative du mec qui est obligé, entre guillemets, de donner des cours.
Ouais, ouais.
Mais je crois que la plupart des gens qui s'intéressent à l'art, qui pratiquent eux-mêmes, etc., souvent, la transmission, elle a une place importante, quand même. Ouais, et en plus, dans le rap, dans le hip-hop, il y a une transmission culturelle supplémentaire.
Ouais, moi, je te parle, c'est pas du tout moi le regard que j'ai, mais c'est, je te dis plus de l'extérieur, peut-être que ça pourrait être perçu comme ça, je sais pas. Mais c'est pas du tout comme ça, je parle du truc, genre, je suis pas du tout négatif vis-à-vis de ça, au contraire. Tu vois, vraiment, c'est pas, je me dirais pas, ah, là, je pourrais faire des instrus pour un tel, alors que je leur donne cours. Tu vois, j'irais avec plaisir. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourrais transmettre selon toi, ou qu'est-ce que t'aimerais transmettre, en tout cas, quel message, ou quelle qualité musicale, je sais pas, mais tu vois...
Déjà, de pas faire de compromis, de pas se satisfaire de peu, ça c'est le plus important, je pense, quand tu veux réussir dans ce milieu-là, de pas se dire, bon bah c'est bien, c'est assez, tu vois, parce qu'il y a, je sais pas combien de pourcents des producteurs qui font bien, tu peux pas être dans les 10% meilleurs producteurs. Tu peux pas être dans le même 1% des meilleurs producteurs si tu veux faire une longue carrière et si t'as des rêves et que tu veux toucher des gros gros artistes. Donc juste pas trop se branler sur ce que tu fais. Et ça c'est un des trucs les plus importants. La rigueur aussi dans le travail. Et le côté ouais c'est possible tu vois. C'est possible et aussi ne pas se travestir. Tu vois t'as envie de faire ça. Ok certes peut-être qu'aujourd'hui tu vois que... pour être sur l'album d'un tel ou d'un tel, c'est plus les sonorités comme ça, mais toi, ça te parle pas. Fais pas ça. Fais ce en quoi, toi, tu crois. Après, toujours en ayant une conscience quand même et en étant réaliste. Si tu fais un truc beaucoup trop spé, ça fonctionnera pas. Tu vois, il faut aussi savoir orienter ce que tu fais. Il faut aussi savoir stratégiquement te dire, OK, moi, j'aime faire ça, mais c'est ça qui marche, et trouver le juste milieu. Tu vois, c'est un truc que je fais moi aussi, par exemple. Je me dis, OK, dans tout ce que j'aime faire, toute la musique que j'aime faire, c'est cette catégorie-là qui a le plus de chances de fonctionner. Moi, j'adore faire ça. Je vais me concentrer un peu plus sur ça, sans retirer le reste, tu vois. Je vais quand même faire tout ce que j'aime faire. Mais stratégiquement, il faut que je me dise, OK, t'adores faire ça, et ça fonctionne. Concentre-toi un petit peu plus là-dessus. Donc, toute cette réflexion, je pense, c'est le truc que j'aimerais bien transmettre. Après, le style, je peux pas te dire, non, joue pas cet accord, il faut que tu le joues comme ça, tu vois.
Est-ce que t'es dans ce truc où t'envoies des... Je sais pas si t'envoies des packs.
Ouais, ça m'arrive.
Et est-ce que t'es dans ce truc où genre t'en mets toujours une où tu te dis celle-là je sais il la prendra pas mais si jamais je la mets.
Ça m'arrive. Ouais. En fait, quand j'envoie des packs, j'essaie d'envoyer un.
Tu veux dire pardon des packs de prod en fait.
Ouais, des packs de prod. Et genre moi j'ai tendance à fonctionner comme ça, tu vois, et à me dire tu envoies un artiste, t'as des trucs qui sont moins prises de risque et dedans t'envoies un truc où tu te dis celui-là à tous les coups il prend pas. Mais j'aurais tenté. S'il le prend, c'est légendaire.
Ouais. Donc, ça m'arrive de faire ça en fonction de l'artiste. Mais quand en gros ma réflexion quand j'envoie un artiste, j'envoie 5, 6, 7 on va dire prod et j'essaie de lui envoyer un EP en fait.
Ok.
Tu vois un EP, un truc varié de moi, c'est comme ça que je perçois cet artiste, et c'est sur tel genre de morceau que j'aimerais
voir.
Mais
qui se tient quand même ensemble, les prods, ou ça peut être très...
Non, ça va être divers, mais tu vois, admettons que je fasse un pack pour Ross, on va dire, et je vais pas envoyer 7 prods soul. Je vais envoyer un truc où c'est comme un mini-album de Ross. Dans un album de Ross, souvent, on trouve telle vibe, Et ben moi, je vais t'envoyer ce que moi j'ai, ce que moi j'aimerais avoir sur ton album. Tu vois, pour que... toi aussi t'es de la variété, que ce soit agréable à écouter, et que si t'as déjà par exemple t'as déjà tes 3 morceaux soul, moi je t'ai envoyé d'autres trucs aussi. J'ai pas tout concentré là-dessus. En gros.
Merci.
Merci. C'était, vous, les gars. C'était passionnant toutes ces discussions. Un petit SO évidemment à Thoman, notre partenaire qui nous permet de faire cette émission. D'autant plus que voilà ça évolue. On espère pouvoir continuer avec ce setup parce qu'on pense que voilà c'est important d'avoir une belle qualité d'image, un bon son.
D'être là côte à côte.
Et de le faire en vrai, de recevoir Tarek, c'est un vrai plaisir de le voir vraiment, d'échanger. Donc voilà, SO Thoman, merci pour tout ça. Force aussi à la Bouclette qui nous reçoit.
SO la Bouclette chaque jour.
Tarek. où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Qu'est-ce que tu conseilles pour te découvrir un peu plus ou découvrir ce que tu fais, etc.
Il y a mon Insta.
Ouais.
Et il y a, tu peux juste taper Tarek Azouz sur Google, ça ira sûrement sur mon Genius, ma page Genius, etc. Et là, tu auras un peu tous les morceaux. Bien que je sois pas crédité sur tous les morceaux, malheureusement, des fois il y a des erreurs.
Parce que le site s'est planté, c'est pas que.
Non, pas le site. Non, là, ça m'est arrivé de pas être crédité sur des morceaux. C'était pas mal intentionné, c'est juste que, il y a des gens qui ont mal fait leur travail et voilà. Donc ça m'est arrivé quelques fois, tu vois. Il y a peut-être 4-5 morceaux dans la nature où je suis pas crédité, tu vois.
Ok.
Ça m'est arrivé.
T'as pas appelé ton avocat tout de suite?
Non, je suis pas crédité dans le truc, mais j'ai mes royalties, etc. Bon, on essaie de rectifier le truc, mais bon, l'erreur est humaine, donc j'en fais pas plus que ça. Mais ça m'est arrivé sur mon deuxième placement, pour le coup, sur Documentary 2 de Game.
Wow.
C'était en octobre, juste après juillet, et j'étais pas crédité, j'étais vraiment dégoûté sur le coup, tu vois. Mais bon, c'est la vie, ça arrive.
Écoute, comme je le dis presque à chaque invité, c'est terrible, mais ça veut dire qu'on a des choses à dire, c'est intéressant. Je dis, tu reviendras pour nous parler de tout ça.
Ça marche.
Bon, en tout cas, vraiment encore merci. Et
merci,
on se retrouve
vous,
tous très très vite pour un nouveau DLT.
Voilà.
Ciao.
Bisous.